Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Aujourd'hui, on va vous parler de laptops en réalité augmentée, de robots qui perdent leur travail face à d'autres robots, de TikTok virtuel dans le métavers et de plein d'autres choses. C'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Rendez-vous Tech. Je ne sais pas si vous avez entendu que j'ai légèrement allongé l'intro, enfin la pré-intro, le temps de trouver le bouton sur lequel appuyer pour lancer le générique. Mais le professionnalisme incroyable qui me caractérise a fait que c'était complètement transparent. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mai 2023, je peux enfin mettre des t-shirts manches courtes en Finlande et c'est l'épisode numéro 514, oui 514, animé par moi-même, ainsi que Guillaume Vendée, fidèle au rendez-vous. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ?
Bonjour Patrick, ça va très très bien parce qu'on enregistre un épisode du Rendez-vous Tech ensemble, donc c'est toujours un grand grand plaisir et que pour l'instant je n'ai pas trop de fourmis qui m'envahissent là au moment où je te parle, donc tout va bien.
Tu nous racontais avant qu'on lance l'enregistrement que tu as une fourmilière dans ton bureau et des fourmis qui étaient dans ton casque qui sont rentrées dans tes oreilles et que tu n'as pas réussi à faire ressortir.
Donc, alors, des oreilles, si, mais de mon bureau, je ne les ai pas fait ressortir encore. J'ai truffé mon bureau de pièges, particulièrement, j'imagine, toxique, chimique et pas du tout respectueux de l'environnement, mais je devrais m'en débarrasser.
Il faut que tu apprennes la dramaturgie de la narration. Tu as des fourmis dans tes oreilles.
Au milieu
de l'épisode, tu vois, le truc va revenir une ou deux fois. Et à un moment, ça va faire cordyceps, tu vas plus pouvoir parler et puis tu vas dire des choses que tu ne devrais pas dire. Je ne sais pas, il y a quelque chose à faire là.
Tu as raison, je corrige, restez bien à l'affût, regardez bien le rendez-vous tech sur Twitch, parce qu'à tout moment, je peux mourir parce qu'une fourmi a
fait mon cerveau. Là, t'es allé trop loin
mince, c'est une histoire de dosage.
T'es encore un peu vert hein, dans le monde du podcast, tu ne fais ça que depuis quoi, 10 ans. Donc,
ça va faire une dizaine d'années. Hein.
Christophe est là avec nous aussi, Christophe Kamikaze, bonjour, comment vas-tu camarade ?
Salut. Ah ben écoute, ça va très très bien, merci. Je reviens du sport là ce matin, donc je suis en pleine forme et chaud patate pour enregistrer cet épisode, même si je suis le super-héros qui vole au secours de la troisième place du podcast.
Je vous raconte tout. Guillaume a peut-être la coiffure de super-héros avec la petite mèche blanche, coiffure complètement impeccable quand je vois sa webcam et que moi, je me vois après. Je dois vous avouer que je me dis qu'il est peut-être un peu vert sur le podcast, mais sur l'apparence et la présentation, il y a clairement un niveau supérieur que je rêve d'atteindre un jour. Peut-être que j'irai chez le coiffeur à un moment. Mais du coup, à côté de Guillaume, bah, y a Christophe. On avait un autre invité qui n'a pas pu venir. Et j'ai envoyé un mail à Christophe au dernier moment, il y a quelques jours à peine. Je dis « Christophe, est-ce que tu serais intéressé par... Je pense à toi depuis des semaines, depuis des mois. J'ai une occasion.
» Attends, tu veux que je lise le mail ?
Et Christophe m'a dit « Ouais, pas de problème. T'inquiète pas, je serai là. » Et donc, le vrai super-héros de ce podcast, c'est pas Guillaume, c'est pas Patrick, c'est Christophe. Merci à toi.
Bien rattrapé.
Très bien, ça marche. Et ben merci.
Le dernier moment pour toi est relatif quand même, parce que tu es toujours largement à l'avance.
Quelques jours,
on essaie. En tout cas, ça marche.
Merci d'être avec nous, Christophe. Merci d'être avec nous, Guillaume. Et merci également à Costorm, Marc Bender, Type de la Croix, Pierre L et les producteurs Eric et Wakatp. WAC-ATP, il y a certains pseudos parfois, je vais vous avouer, parmi les patriotes formidables qui soutiennent l'émission financièrement, il y a certains pseudos, parfois j'ai un petit peu de mal à savoir exactement comment on les prononce, mais c'est ça qui fait aussi le sel de cette activité, c'est le plaisir de voir mon interprétation de vos pseudos. Et en l'occurrence, WAC-ATP, on va dire ça comme ça, qui est un nouveau producteur de cette émission. Merci à lui d'avoir trouvé le niveau secret incroyable. Merci également à Eric qui nous soutient depuis longtemps. Et merci aux nouveaux que je viens de citer de soutenir le Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech. Et on se lance tout de suite dans les informations principales. Alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je dise « on se lance tout de suite dans machin » parce que ça fait redondant avec le générique. C'est pas faux. Il faut que je m'entraîne. Là aussi, je suis encore... Vous savez, le podcast... C'est comme, c'est quoi cet effet où on a l'impression qu'on connaît les choses quand on en connaît très très peu, et puis finalement on se rend compte au bout d'un moment quand on en apprend plus qu'en fait on connaît rien du tout. Ah, je me souviens plus, le Dunning-Kruger effect ou un truc comme ça.
Ça me parle effectivement. J'avais une vidéo d'Étienne Klein qui parlait de ça.
Il y a, bah, c'est un phénomène psychologique connu qui fait que quand on est l'effet Kruger. D'accord, bah c'est ça, bien, c'est bien ça.
Dunning-Kruger, c'est ça, effectivement.
Dunning-Kruger, très bien. Ah, je m'en suis souvenu quand même à la dernière seconde.
Joli.
Mais effectivement, il y a cet effet qui, quand on aborde un sujet au départ, on a l'impression de très bien connaître, et c'est seulement parce qu'on maîtrise un tout petit peu, et c'est seulement quand on en apprend plus qu'on se rend compte que bah, vraiment, il y a plein de choses, et c'est le cas dans le podcast également. Et pour la gestion des intros, il ne faudrait pas que je dise « on passe au... » Donc on va la refaire, vous êtes prêts ? Attention, 1, 2, 3. Et donc, merci patreon.com/rdvtech. Dans les news principales aujourd'hui, on va commencer avec du matériel. C'est pas mal, là. C'est mieux, non ?
Ça passe.
Dites-moi, abonnez-vous, likez le podcast sur Apple Podcast si vous avez apprécié ce petit moment de comédie intense. Du matériel un petit peu, je me suis dit qu'on allait changer les sujets dont on parle et parler de choses un petit peu différentes et en l'occurrence un petit peu de matériel avec trois sujets qui m'ont paru intéressants. D'une part, le laptop 13 pouces Framework qui vient de sortir, on vous en parlera dans une seconde. Logitech qui crée un partenariat avec iFixit. Et le truc un petit peu WTF, comme disent les jeunes, le Sightful, qui est un laptop réalité augmentée, qui est un design qui est... J'imagine qu'il y a peut-être déjà eu des trucs présentés comme ça au CES, mais là, ça a l'air un petit peu plus... Enfin, un peu mieux fini, et puis c'est en vente, en série limitée, en test, machin, mais... On va vous en parler. Donc, le premier, c'est le Framework. Vous vous souviendrez peut-être des laptops Framework. Ce sont des ordinateurs portables, hein, on ne dit pas laptop, on dit ordinateurs portables, qui sont conçus pour être aussi réparables que possible. Et ils ont déjà fait des téléphones, ils ont, je crois même, déjà fait des ordinateurs, mais là, c'est le nouveau modèle qui a été testé par The Verge notamment, avec un verdict qui est, à vrai dire, plutôt correct. J'ai l'impression que là, on arrive... Alors, il est un petit peu classique, il fait un petit peu plastique, il n'est pas très original dans son design, mais par contre, il est extrêmement réparable et ça devient, je crois, une option cohérente pour quelqu'un qui veut un ordinateur portable qu'il soit possible à réparer, à faire évoluer, parce que c'est vraiment la philosophie de Framework qui fait des machines dont il est possible, même pour les laptops, de changer les pièces, voire de mettre des pièces un petit peu différentes, plus performantes pour certaines d'entre elles. Ce n'est pas un pari facile avec un ordinateur portable où tout est méga miniaturisé, soudé partout, etc. Il est un petit peu cher pour ce qu'il propose, mais étant donné qu'on peut le réparer, il est autour de 1000 dollars aux États-Unis, étant donné qu'on peut le réparer, eh ben ça peut être un investissement. À côté de ça, on a donc Logitech qui fait un partenariat avec iFixit. iFixit, c'est une société qui vend des pièces détachées et crée des guides pour réparer même les appareils les moins réparables de la Terre. Ils sont célèbres notamment pour leur guide de réparation des iPhones. Et donc, Logitech a fait un partenariat pour rendre réparables certains de leurs produits. Alors, ce n'est pas tous les produits Logitech, mais notamment la gamme MX, qui est assez populaire. Et donc, si vous avez un petit souci avec votre accessoire, eh ben vous pourrez... Alors, là aussi, c'est aux États-Unis, hein, ça commence cet été, mais ils pourront aller sur le site d'iFixit pour... télécharger un guide ou regarder une vidéo guide et évidemment acheter des pièces et des accessoires pour réparer tout ça. Les deux news en elles-mêmes ne sont pas incroyablement phénoménales, mais on sent quand même une petite tendance se dessiner chez les constructeurs et les gros acteurs de la tech vers... Alors, j'ai toujours pensé que l'obsolescence programmée était une un fantasme, une chimère. Mais par contre, le fait de pouvoir concevoir ces produits pour qu'ils durent plus longtemps, aussi longtemps que possible et qu'ils soient réparables, c'est une possibilité, évidemment. Et là, on sent que, bon, on pourrait dire c'est de la com, c'est pour faire bien, machin. Dans le cas de Framework, évidemment, ce n'est pas le cas, il y a une vraie philosophie derrière. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance quand même chez les constructeurs. Je te vois hocher de la tête, Guillaume.
Ouais, bah en tout cas, c'est bienvenu. C'est vrai qu'on a souvent associé le monde de la tech maintenant à des produits qui ne sont pas durables du tout. Tu parles d'obsolescence programmée. J'entendais il n'y a pas très très longtemps encore une action liée à 60 millions de consommateurs. Je ne sais plus quelle association s'est vachement investie dans le combat contre Apple par rapport à justement une obsolescence programmée. Moi, je suis assez de ton avis. Je pense que ça reste un fantasme sur plein d'aspects, même s'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait critiquer. Je pense à des cartes touche d'encre, notamment. mais là, en l'occurrence, oui, c'est des propositions sympas. Après, je reconnais que moi, j'ai pas encore le coup de cœur et la désirabilité pour ces produits. Pourtant, je pense être plutôt dans une cible assez large, hein, d'ailleurs, de gens qui sont assez sensibles à l'environnement et qui pensent à l'impact environnemental de leurs achats. Mais j'ai pas encore le coup de cœur de désirabilité. Logitech, je l'avais déjà pour la qualité des produits. Framework, tu vois, je suis pas du tout, moi, sensible à leurs propositions de produits, surtout pour le prix que ça représente. Et je me dis que c'est pas encore demain la veille que les gens vont se jeter là-dessus massivement, quoi. Il faut que ce soit un exemple maintenant et que les constructeurs le reprennent, je pense.
C'est un petit peu le problème de ce genre de produit. C'est pas hyper sexy, quoi. Il faut avouer, c'est générique. Et c'est vrai que la tech est tellement présente dans nos vies qu'on a envie de quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait envie. Mais est-ce que c'est pas la définition du consumérisme de dire je vais acheter un truc qui est cool, complètement, tu vois, machin, et en même temps tu dis je suis sensible à la question environnementale, si on ne fait pas cet effort de se dire bon je vais me restreindre un peu sur mes envies, est-ce qu'on peut dire qu'on est, ouais. Moi je suis comme toi, hein, complètement, mais est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une étape à dépasser un petit peu pour appréhender les choses vraiment sérieusement et faire un minimum d'effort sur nous-mêmes pour nous dire ok, il est moins sexy, mais si tu veux, la terre qui brûle, c'est pas super sexy non plus, donc il y a peut-être un choix à faire. Christophe, est-ce que toi, tu serais prêt à acheter un laptop moins sexy comme ce Framework qui, entendons-nous bien, il est pas moche, hein. C'est pas un truc qui fait 4 cm, il est relativement fin, il est juste générique, mais...
C'est un cercle vicieux, cette histoire. C'est-à-dire que si t'as personne qui va se jeter dedans pour acheter, en fait, t'auras pas le business qui va marcher, ça sera pas assez rentable, ça va rester cher et de niche. Donc, il faut quand même bien alimenter la machine à un moment donné. Donc, soit un investissement massif pour que ça devienne suffisamment sexy et attirant pour que les gens commencent à l'acheter, soit c'est vraiment un achat très engagé. Mais aujourd'hui, t'as pas suffisamment de gens engagés pour pouvoir se jeter là-dessus. Moi, je me suis posé la question et aujourd'hui, le framework, je le vois pas en remplacement d'un pour moi, en tout cas, d'un ultra portable. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas trop sur cette gamme-là, même si dans l'article sur lequel tu te bases, il le compare beaucoup avec le Dell XPS 13, qui est pour moi une DRF chez Dell en termes d'ultra portable. Pour moi, il est plutôt sur les portables, plutôt desktop replacement, tu vois, vu la taille, le fait qu'il soit plastique, les gammes assez gros. Donc non, je le prendrai pas pour ça.
Ouais.
Mais l'autre avantage, c'est que là, tu parles beaucoup de tout ce qui est réparabilité, mais l'autre avantage de Framework, c'est qu'il est surtout aussi customisable. C'est-à-dire que quand tu l'achètes, ouais, tu peux choisir les différents modules que tu vas avoir pour les ports, les ports de sortie. Et ça, c'est hyper intéressant, notamment pour des cas alors plutôt professionnels où tu vas pouvoir avoir encore des ports VGA, des ports série, des ports comme ça que tu ne peux plus avoir aujourd'hui sur les portables. Ouais, mais aujourd'hui, si tu veux avoir ça, il faut que tu te bases sur des gammes de portables qui sont soit très chères, soit très moches, soit les deux. Et alors que là, tu peux avoir...
C'est l'affaire du siècle, là. Alors, monsieur, nous avons un ordinateur à vous proposer. Il est pas seulement très cher, pas seulement très moche, mais les deux. Oui, effectivement, si c'est ça ta compétition, ça peut être intéressant.
Non, mais tu peux acheter des modules, du coup, pour choisir les ports que tu veux, ce qui est encore un sujet aujourd'hui, notamment quand t'as des ports USB-C partout et plus de ports HDMI, des choses comme ça devient un peu plus compliqué, tu vois. Donc ça, c'est intéressant au niveau de la customisation, déjà au niveau de l'achat, parce que tu as ça, mais tu as aussi l'upgradabilité, c'est-à-dire que Framework, leur promesse, c'était que tu vas pouvoir upgrader des composants de ton PC. Et ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'il y a eu une génération, alors pas celle-ci, mais la génération d'avant, où ils étaient sortis avec les processeurs Intel 11e génération, je crois, et ils ont proposé un upgrade vers la 12e génération, qui était relativement cher pour ce que ça apportait, était sur la base précédente du framework, du portable, donc n'était pas encore la version finale, celle que tu présentes aujourd'hui en 2023, mais au moins la proposition de valeur. Donc tu peux, tu vois, garder ton clavier, ton écran, tu jettes pas tout. et tu peux upgrader à moindre coût quand même vers une nouvelle génération. Ça me parle, tu vois. Te dire, tu jettes pas tout ton truc, mais tu gardes des composants qui sont encore d'actualité, parce que les écrans, fondamentalement, c'est un cycle de vie qui est quand même plus long que le reste des composants. Je veux dire, le CPU, la mémoire, ça évolue relativement vite encore. Les écrans, le clavier, c'est des choses que tu peux récupérer, tu vois, c'est les périphériques que tu gardes quand tu upgrades ton PC de bureau.
Ouais.
Mais là, tu peux avoir la même chose sur un portable, tu peux avoir la même proposition. Ça, je trouve ça intéressant. Mais tu vois, pareil, pas sur un portable que j'emmènerai partout, plutôt sur un remplacement de bureau, tu vois, un portable outil qui remplace un PC de bureau plutôt qu'un ultra portable.
Il y a l'évolutivité. Juste un mot pour dire, tu sais, il y a l'évolutivité. Je ne sais pas si vous avez vu l'écran, là, c'est Ulrich Rosier qui a publié ça sur Frandroid, là, mais l'écran de Steam Deck qui est en vente, là, et qui propose donc de remplacer l'écran du Steam Deck. Je t'envoie le lien, je ne sais pas si tu l'avais vu passer, Patrick, je vais le mettre dans la chatroom, mais en gros, la proposition, c'est de dire le Steam Deck, c'est une super machine qui fait de l'œil à plein de monde, mais l'écran est un peu... passable. Il est pas mal, mais on peut le trouver bien mieux. Et le fait de pouvoir acheter un écran qui remplace une console portable comme ça, c'est aussi super intéressant en termes d'évolutivité. Alors, c'est pas si simple que Framework, je pense, hein, parce qu'il est quand même question de décoller l'écran, etc. Donc, ouais, c'est pas le truc aussi modulable que ça.
Alors,
hein, on est loin d'un...
Tu vas avoir un tutoriel pour ça. C'est...
Ils l'ont publié, effectivement. Ouais, mais oui, cette évolutivité, c'est aussi cet exemple-là que ça va montrer, j'espère, à plein de constructeurs qui va permettre de faire évoluer les choses. C'est cool de faire vivre un produit.
Il faut que, à vrai dire, pour être complètement honnête, pour que tout ça fonctionne, il faut que l'industrie entière s'oriente dans cette direction, parce qu'on avait déjà parlé de Framework avec leur téléphone il y a quelques mois de ça, et le problème, c'est qu'ils avaient dû arrêter, décommissionner un appareil qui n'était pas trop ancien, quelques années seulement, parce que dans l'industrie, il devenait difficile de fournir des pièces qui étaient adaptées à ce type d'architecture. Même, on parle de l'ordinateur portable, on peut changer le processeur ou ce genre de choses, mais on sera limité par la carte mère. Alors après, peut-être qu'on peut changer la carte mère, mais ça devient encore plus compliqué. Et à ce moment, si on change la carte mère, qui est l'essentiel de la machine, enfin la colonne vertébrale de la machine, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on change un petit peu toute la machine ? Enfin, il y a plein de problématiques comme ça, dont je ne suis même pas complètement sûr qu'elle soit réglable, mais moi, ma conclusion, c'est que oui, on peut faire des choses, mais pour vraiment faire des choses, il faut que toute l'industrie change un petit peu, shift un petit peu de philosophie. Et bon, pour ça, je ne sais pas si elles y ont intérêt naturellement, donc peut-être qu'il faut que certains acheteurs motivent financièrement par leur choix, quoi. Mais bon.
Il y a quand même un truc, c'est que... alors déjà, je ne suis pas sûr que ce soit Framework qui fasse le téléphone, c'était plutôt Fairphone, non qui,
Ah, c'est Fairphone, tu as raison. Non, Fairphone. Mais il y avait un... Ah non, peut-être que... Non,
Framework, ils ont pas fait de mobile.
Autant pour moi.
Ils n'ont pas fait de mobile.
Mais enfin, je veux dire, le problème est le même. C'était un téléphone qui était
le problème est le même.
Mais tu as raison, oui.
Exactement.
C'était Fairphone.
Et c'était la même proposition, c'est-à-dire que ça restait... c'était une sous-gamme, on va dire. Enfin, c'était l'entrée de gamme. Et puis, c'était un achat engagé. Sur la partie réparabilité, quand même... Ce qui change fondamentalement, c'est que ce n'est pas nouveau ce que propose Framework, c'est juste qu'il le propose au grand public. C'est-à-dire que je vois, moi, j'ai beaucoup utilisé de machines Dell, et Dell, les machines sont extrêmement réparables chez eux. Les pièces détachées, non, franchement, alors ça reste dans les gammes pro, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à leur service client, mais tu as énormément de pièces que tu peux changer et réparer, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. C'est-à-dire que l'industrie, tu vois, au niveau de construction de matériel, ils sont capables de le faire depuis très longtemps, c'est ça que je veux te dire. Et ils le faisaient dans un service pro. Et le nombre de fois où j'ai fait réparer des machines Dell, c'est incroyable, même sur des XPS, donc des machines qui sont relativement ultra portables. Bon, souvent, ils te changeaient toute la carte mère ou tout était soudé dessus, mais tu pouvais garder l'écran, le clavier, etc. Ce qui change avec Framework, c'est que maintenant, en fait, ça devient du pour le public. En fait, tu peux le faire au grand public, et tu as les tutos qui sont mis en place, etc. Je ne proposais pas Dell, puisque ça restait un service, tu vois, après-vente, qui était aussi soit dans la garantie, soit facturé après coup. Mais l'industrie était déjà prête, c'est juste que maintenant, ça ne franchit pas du grand public.
Bon, un autre truc qui va peut-être franchir le pas du grand et du petit public, c'est le Space Top. Alors, le Space Top, c'est quoi ? C'est ce fameux ordinateur réalité augmentée qui est vraiment bizarre parce qu'il n'a pas d'écran, en fait. C'est un ordinateur qui est un ordinateur portable avec pas d'écran. À la place de l'écran, il y a des lunettes de réalité augmentée qui vous promettent d'avoir dans votre vision, dans votre champ de vision, l'équivalent d'un écran immense devant vous, un petit peu flottant dans l'espace grâce aux lunettes de réalité augmentée. et qui vont avoir ou auquel vous pouvez sur lequel vous pouvez placer toutes vos fenêtres indépendamment, etc., etc. Donc c'est marrant de se dire il y a un ordinateur portable sans écran et juste avec des lunettes. Là où il y a peut-être, alors déjà le concept est peut-être un petit peu boiteux potentiellement pour tout un tas de raisons, mais également ce qui à mon avis rend les choses très 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 compliquées, c'est que c'est un ordinateur qui n'est pas sous Windows, il est sous Android modifié machin, et donc on n'a pas tous nos logiciels Windows. Mais le concept en soi, si ça fonctionne bien, pourquoi pas ? Christophe hoche de la tête encore et lève des sourcils en même temps, donc je ne sais pas très bien.
Tu vas faire un emoji avec ça, tu vois.
C'est ça, exactement.
Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, c'est un Android, c'est un dérivé d'Android, donc ça part mal, malheureusement. Après, je ne sais pas si tu avais testé l'expérience de Windows Mixed Reality sur les casques quand ils avaient sorti. Ils avaient une proposition équivalente où tu pouvais, dans le portail, c'est le hub d'accueil, tu pouvais avoir une expérience, tu te créais un espace virtuel où tu pouvais épingler tes fenêtres Windows et certaines applications, pas toutes, hein, celles qui étaient compatibles, notamment oui, le navigateur Edge, etc.
Merde, comment il s'appelle
avec les casques. Non, pas avec le HoloLens. Avec
c'était pas le HoloLens, d'accord.
Non, après ils l'ont porté sur HoloLens, mais à la base c'était avec les casques de MR, les casques,
d'accord, donc les casques de réalité virtuelle. Oui, parce que là, je ne l'ai pas mentionné, mais le casque de réalité augmentée de ce laptop, de ce portable, il est très léger. Hein. C'est des grosses lunettes, on va dire. Donc c'est pas un casque de réalité virtuelle qui va vous couper complètement. C'est des grosses lunettes sur lesquelles on peut ajuster des lunettes de vue si on en a besoin aussi. Donc c'est pas très.
Alors non, justement, tu peux pas mettre de lunettes de vue.
Mais il y a des. Il y a des.
Ils te font des lentilles.
C'est ça que tu ajustes.
À ta vue gratuitement. Ouais. Non, à ta vue gratuitement. Ouais. Si tu les commandes, si tu envoies leur prescription. Ça, c'était une anecdote marrante pour te dire. Ça reste du POC, leur projet. Mais
disons que si tu portes des lunettes, tu peux les utiliser. Enfin, tu peux l'adapter à ta vue, mais oui, c'est contraignant. C'est pas juste tes lunettes que tu gardes sur le nez, effectivement.
Bon, pour en venir sur l'expérience, en fait. Moi, je me rappelle de deux choses, en fait. Je me rappelle des casques de MR Windows où tu pouvais épingler quelques fenêtres sur un espace immense sur ton mur, en fait, virtuel. Et en même temps, HoloLens. Et alors, l'expérience de Mixed Reality où tu épinglais tes fenêtres, elle n'était pas ouf parce que tu avais des projections d'applications et un rendu, du coup, 3D où, du coup, ce n'était pas hyper lisible en termes de texte. Tu restais sur quelque chose du virtuel. Donc, si tu veux faire de la productivité avec des tableaux Excel ou même lire du texte sur un navigateur, ce n'était pas exceptionnel en termes d'expérience, en termes de qualité de rendu, notamment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est HoloLens. C'est pareil, l'image, elle est projetée sur un espace transparent, c'est-à-dire que tu n'as pas d'éléments fixes. Et là, c'est ce qu'ils proposent aussi, c'est-à-dire que c'est des lunettes, donc ça va te projeter en réalité augmentée. Donc, ça te projette sur ce que tu vois à travers les lunettes. Donc, tu vas quand même avoir, tu vois, des choses à travers l'image qui t'est projetée. Donc,
oui,
c'est pareil,
l'opacité de l'image est suffisante, tu peux quand même lire. Là, il faut leur...
Soit tu te crames les yeux parce qu'ils te bombardent des lasers.
Non,
à fond
pas forcément. C'est juste que ça rend...
ce que tu vois.
Sur l'écran, ça rend le truc opaque, tu vois. Sur l'écran qui est dans les lunettes, ça rend le truc opaque suffisamment pour que tu ne vois pas à travers. Tu parles d'Excel, le problème se pose pas parce que c'est pas Windows, donc tu pourras pas utiliser. Bon, tu peux peut-être prendre Excel sur Android, mais
Spreadsheet. Spreadsheet sur un navigateur. Non, je pense que Android, tu vas faire essentiellement du Chrome, enfin de la navigation, travail dans le navigateur. Donc tu peux le faire sur du Google Spreadsheet, par exemple. Mais oui, tu vas devoir passer en contraste élevé. Tu vois, tu vas te mettre en mode, je suis handicapé, handicapé des yeux à cause de mon laptop.
Je suis pas convaincu. Moi, je pense qu'en réalité augmentée, de la même manière que tu vois, si tu as un écran, si sur l'écran des lunettes, ils réussissent à rendre l'image suffisamment opaque pour te bloquer la lumière de ce qu'il y a derrière, eh ben, tu vois ton truc de la même manière que si tu avais un écran complet quoi, devant les yeux de réalité virtuelle.
Faut le voir. Faut le voir, c'est à tester, c'est ça. Il y a une fonction marrante, par contre, du coup, avec ça, c'est qu'il proposait un bouton magique pour dire j'éteins mon bureau pour voir ce qu'il y a derrière à travers, pour pouvoir interagir avec les gens qui sont juste derrière toi, tu vois, par exemple. Ça peut être rigolo.
C'est l'avantage de la réalité augmentée.
Et sinon, l'intérêt, c'est qu'il montrait la taille de l'écran, c'est pour être intéressant aussi.
C'est ça.
Du coup, avec ça, tu peux avoir un écran relativement grand. Alors, c'est pas non plus tout l'espace, l'angle de vision, c'est pas 100%. C'est quand même beaucoup plus que ce qu'était HoloLens. Et sur 57 degrés, je crois, un truc comme ça, donc ça fait relativement large. Et ça fait l'équivalent de deux écrans très larges, de 32 pouces projetés. Ce qui peut être pas mal.
Ouais. Bon. À voir si on a les mains ou les yeux dessus un jour. Il est possible de le commander, mais il limite la première production à genre 2000, 2000 unités, il faut se mettre sur une liste d'attente. Donc, ce n'est pas un produit qui est disponible pour le grand public encore.
Il y a un côté confidentialité qui est cool aussi, finalement. C'est, oui. On le dit dans la chatroom. Mais oui, effectivement, tu es dans le train. Bon, je ne suis pas sûr que tu passes inaperçu avec cet usage-là en ce moment, si tu as ce type d'appareil. Mais il y a le côté confidentialité de ce que tu affiches. En fait, ce qui me faisait marrer, moi, Patrick, au passage, c'est que tu avais mis les trois news, donc Framework, Logitech et la réparabilité, et ça, côte à côte. Et je me demandais si tu voulais y mettre un message subliminal sur le fait que, oui, vous voyez, d'un côté, on nous met en avant de la réparabilité, de la modularité, et c'est très bien. Et en même temps, c'est quand même difficile probablement de s'adapter à des évolutions technologiques telles que celle-ci. J'ai peut-être surinterprété.
Non, il y a un petit peu de ça aussi, tu vois, parce que c'est le problème de la durabilité plus encore que la réparabilité. C'est que si la technologie évolue véritablement et que les nouveaux matériels et les nouveaux concepts ne sont pas compatibles avec les anciens, ça peut être compliqué de pousser la réparabilité dans ces conditions, mais je pense que malgré ça, il est possible de faire plus pour la durabilité que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais oui, ça pose aussi cette question. Et justement, à propos de durabilité, il y a un article du Wall Street Journal qui était hyper intéressant sur les robots-services. Alors, on parle beaucoup de réalité, d'intelligence artificielle et on dit « Ah voilà, l'intelligence artificielle va remplacer les humains, le travail des humains pour ci et ça et ça. » Et il y a un pan de la technologie qu'on ne voit peut-être pas venir, il nous attaque des deux côtés en fait, hein. C'est les robots services. Et dans cet article, ils prennent deux exemples. Le premier, c'est celui de robots dans les hôpitaux qui vont, par exemple, amener les médicaments ou faire ce genre de choses, jusqu'aux patients, hein, vraiment. Et l'autre exemple qu'ils prennent, c'est celui des robots dans les restaurants, qui sont... Alors, ils ne ressemblent pas à des robots humanoïdes, encore que celui de l'hôpital ressemble un tout petit peu à un humanoïde au niveau du haut du corps. C'est un robot qui s'appelle Moxie. Et dans le cas de celui dans les restaurants, ce n'est pas du tout un robot, ça ne ressemble pas à un humain, c'est une sorte d'étagère roulante, on va dire. Mais tout ça, c'est intéressant. Il y a en fait, pendant la pandémie, eu un développement significatif de ce type de technologie et d'outils. Mais là où c'est encore plus intéressant, quand je vous parlais de robots au chômage, c'est que déjà dans les restaurants, il y a des robots qui ont été mis en place il y a quelques années, et là aussi pour la durabilité et l'environnement, peut-être qu'il y a quelque chose à dire, mais des robots qui ont été mis en place il y a quelques années à peine, qui sont déjà remplacés par d'autres robots plus performants. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'étape où les robots remplacent les personnes qui travaillent dans les restaurants, mais on est à l'étape où des nouveaux robots viennent remplacer les anciens robots. Et donc, l'article tourne avec humour et un petit peu de malice cet élément en disant que l'ancien robot, il est relégué à l'accueil et il est là juste pour faire de la figuration pendant que les nouveaux sont venus le remplacer dans la salle.
Les anciens robots commencent à se syndiquer pour protester contre l'arrivée des robots nouvelle génération.
Mais c'est assez... Enfin, d'une certaine manière, c'est un petit peu terrifiant parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup moins, qui prend beaucoup plus de temps à se développer, évidemment, que l'IA. Et c'est marrant, ils disent, par exemple, les infirmiers et les infirmières sont pas super content de ces investissements parce qu'ils se disent, vous dépensez de l'argent pour un robot qui pourrait être, et cet argent pourrait être utilisé pour engager plus de monde pour bosser dans l'hôpital. Et l'article mentionne avec justesse, il n'y a pas vraiment de ce genre de réaction quand un hôpital va acheter des télécopieurs ou un système va investir dans un système de pneumatique pour envoyer les messages. Ça se fait un petit peu dans les hôpitaux ou des trucs avec des rails, tout ça. Ce qui est évidemment tout à fait compréhensible parce que le robot, là, littéralement, il remplace une partie du travail des infirmiers ou des infirmières. Mais cette partie, le robot qui est mis au chômage, moi, ça m'a un peu terrassé parce que ce n'est pas forcément comme ça qu'on voit les choses.
On ressent de la peine de ta part quand tu...
J'irai peut-être pas jusque-là, mais de la peine peut-être. Pas de la peine, mais de la surprise. Vraiment, que on ait ces applications qui soit déjà active. Alors, on parle des États-Unis hein, spécifiquement, mais qui soit déjà active et pas du tout de la théorie. C'est des applications commerciales, des gens qui ont acheté les robots pendant la pandémie, qui étaient en service et qui fonctionnaient, tu vois, et qui les ont gardés après la fin des lockdowns. Donc, ça m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'on était arrivé déjà à une étape où les machines commençaient à nous remplacer, en fait. C'est un peu ça.
Bah, à quand le robot framework, tu vois, que tu pourras upgrader
ah oui.
pour
faire des parties. La boucle est bouclée.
Exactement. Exactement.
Mais on parle de ça avec effectivement le regard premier qu'on peut avoir, c'est de critiquer ou pas d'ailleurs, hein, mais le remplacement des humains et du métier des humains par des robots. Alors il y a toujours aussi ce delta de oui, mais ça va créer des emplois dans l'évolution des robots, la construction, le développement, etc., etc. Mais il y a quand même des situations. Moi, j'échange souvent avec mon copain Matt qui est au Québec, lui, et qui témoigne à quel point il y a une pénurie de main d'œuvre là-bas sur énormément de métiers, que ce soit d'ailleurs des métiers dans le numérique, mais aussi des métiers manuels, enfin, en fait, dans un pan énorme de la société. Et le Québec est vraiment en peine là-dessus. Enfin, c'est vraiment, ça pénalise beaucoup les entreprises. Et quand on voit ça, bah, on se dit finalement, oui, les robots, on ne les voit pas non plus que comme des remplacements d'humains, mais aussi comme des moyens de faire évoluer les choses très logiquement par rapport à des situations de pénurie de main-d'œuvre, quoi.
Oui, Christophe.
La question qui se pose, c'est est-ce que tu as une pénurie de main-d'œuvre parce qu'il n'y a personne qui veut bosser dessus ou parce que tu ne rémunères pas comme il faut, en fait, c'est ça. Et autant sur la partie, alors sur la partie restauration, c'est vrai qu'il y a une énorme pénurie, et post-pandémie essentiellement. Enfin, je le vois autour de moi, j'ai quelques amis voisins restaurateurs qui ont énormément de mal à recruter tout ce qui est serveur notamment. Et puis, ce n'est pas un métier qui est hyper... qui donne envie aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'une question de rémunération.
Par contre, c'est des métiers très difficiles. Travailler dans la restauration, oui. C'est vraiment dur.
Mais sur la partie médicale, par contre, je suis beaucoup plus partagé parce que tu as quand même un côté énormément humain et social. C'est-à-dire que le métier notamment des infirmières, tu vas pas juste qu'apporter les médicaments. Ça, c'est le côté mécanique, on va dire, de la chose. Ouais. Tu as aussi le lien que tu crées, tu rassures les patients,
ouais, mais si
tu
jamais
vas interagir avec eux.
T'as
tu vas
t'as
pas
raison.
Encore faire ça.
Mais si tu consacres la partie du temps robotisable de l'infirmier ou de l'infirmière pour que l'infirmière passe plus de temps auprès des patients pour discuter, finalement, c'est aussi à voir comme, tu vois, quelque chose qui capitalise, au contraire, encore plus sur l'humain que ce n'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le serveur, t'as plutôt envie qu'il te conseille, qu'il arrive à personnaliser ta commande, etc. Ou est-ce que t'as envie que physiquement, il t'apporte les verres à table, finalement ?
La question que tu poses est celle de la confiance dans les personnes qui dirigent ce genre d'institution. Est-ce qu'ils vont investir ? Et tu vois, est-ce que c'est une question de...
évidemment, l'hôpital... ou de service.
Et voilà, quand on parle de l'hôpital, on ne peut pas en parler de la même manière que quand on parle de ce genre de service dans lesquels la recherche de profit ne peut pas être la seule fin. Sinon, ça dégrade énormément un service qui va plus loin que juste le fait de se faire mal servir au restaurant.
C'est un sujet sensible. C'est-à-dire que l'hôpital, c'est un sujet en ce moment, rien que pour ça, parce que justement, ils sont sur les optimisations des coûts et c'est à trancher sur le temps du coût et la qualité que tu passes avec tes patients. Donc,
c'est ça. Et donc, quand tu as la possibilité d'avoir un robot qui va aller à l'hôpital pour accomplir certaines tâches des infirmiers et des infirmières, évidemment, je ne pense pas que tout à coup, on va dire « Ah bah super, vous avez plus de temps, vous allez pouvoir passer plus de temps à conseiller, à machin. » La réflexion, ça va être « Bon, bah donc, on a besoin de 3 infirmiers de moins quoi, pour faire le travail. Bah, » Donc,
ça risque d'être ça, oui.
A priori. Mais à vrai dire, au-delà même de cette question, si on dépasse ce sujet-là, on va espérer que les choses continuent à être... aussi bien faites que possible, même dans ces secteurs où la tension entre les budgets et les besoins sont compliquées. Quand on dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, sans parler de la restauration, qui est effectivement, c'est des métiers durs que les gens n'ont plus envie de faire, parce que, alors, il y a un siècle, on disait que la mine, c'est les métiers durs, aujourd'hui, c'est la restauration, peut-être que c'est une évolution dans le bon sens, mais c'est clair, la restauration, bah, c'est compliqué, t'as les pauses entre les services, tu bosses jusqu'à pas d'heure, c'est des métiers qui donnent pas du tout envie, mais au-delà de ça, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans des métiers un petit peu plus désirables, comme, je sais pas moi, les métiers de l'informatique, le problème, c'est que les personnes dont le travail va être rendu moins nécessaire, comme au hasard, les infirmiers et les infirmières, bah, ils ne vont pas, du jour au lendemain, se reconvertir en analyste programmeur pour aller combler les... Enfin, bon, ils pourraient, potentiellement, mais ce n'est peut-être pas ce qu'ils ont envie de faire. Surtout, j'imagine que quand on va travailler à l'hôpital, c'est plus par vocation. Tu n'as pas tout à coup envie d'aller travailler pour Dell ou une SS2I. Donc, ouais, bon, bref, on revient sur les classiques complètement éculés de ces sujets, mais les robots sont là, quoi.
Un autre classique qui est abordé brièvement, je crois, dans l'article, qui est intéressant, je trouve toujours, c'est l'anthropomorphisme, quoi. C'est l'acceptation des robots de par leur ressemblance à une silhouette humaine ou un visage humain. Il parle des personnes qui se font des selfies à côté du robot. Je pense qu'il y a le côté aussi innovation rigolo qui est sympa. Mais c'est sympa de voir aussi que l'acceptation de la part des collaborateurs, des clients et des entreprises passe aussi par ça finalement, et que bah, trop anthropomorphiser, ça passe, oui, trop anthropomorphiser un objet, bah, ça le rend pas forcément plus acceptable dans une entreprise. Mmh.
Et puis je vais le mentionner quand même un petit peu aussi, il est indéniable que ce type de technologie, comme on dit, pour l'intelligence artificielle, il y a un chemin médian aussi qui fait que ça apporte de la productivité. De la même manière que l'ordinateur a apporté de la productivité, c'est-à-dire qu'on peut faire plus de choses, et on en parle souvent, l'explosion de possibilités que ça a offert à tout le monde. Le gros avantage de la technologie, c'est que ça donne plus d'outils, plus de possibilités pour les gens normaux. Et évidemment, il y a un équilibre à trouver qui est difficile à établir par la législation ou par l'action du gouvernement, mais même si c'est difficile, je crois qu'il n'y a pas d'autre biais que l'action du gouvernement, parce que on peut pas laisser le Far West, quoi. Et l'équilibre entre permettre pour que ça puisse faire avancer certaines choses et réguler pour que ça ne détruise pas d'autres, il est toujours hyper difficile à trouver, et ça va être le cas pour l'IA, pour les robots, pour toute la technologie, quoi.
C'est exactement ça. Je lisais un article, je ne sais plus où, là-dessus. En fait, c'est l'histoire de l'évolution humaine. C'est-à-dire qu'on a toujours évolué comme ça par création de nouveaux outils qui nous ont permis des gains de productivité et consacrer notre temps à d'autres choses derrière. Donc, soit à améliorer notre quotidien, soit à développer notre savoir, des choses comme ça. Et c'est depuis tout temps l'homme. Hein, c'est à peu près ça. Tu as commencé par créer des outils, les silex, après tu as vu le feu, après tu as vu la révolution industrielle, les machines. Et aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, c'est l'IA. Enfin, ça a été l'informatique quand même, et c'est l'IA et la robotique aujourd'hui qui sont en train d'arriver, ces changements c'est des outils. Il faut vraiment considérer ça comme des outils qui vont du coup nous aider à mieux travailler et pouvoir consacrer notre temps et notre énergie à d'autres choses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est sur une sorte de révolution, donc un changement fondamental dans les habitudes de travail, culturel également, et comme tout changement, forcément, tu vas perdre des gens, quoi. Faut les accompagner. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement ou pas? Ça, c'est des grandes discussions qu'on peut avoir, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est juste une nouvelle technologie et un nouvel outil qui est en train de nous arriver entre les mains.
Je pense que la plupart des gens savent. La première vraie évolution, enfin pas la première, mais l'une des énormes évolutions technologiques dans l'agriculture, c'est le moment où l'humanité a eu des surplus. Je ne sais pas quel est le terme scientifique, mais surplus de nourriture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu produis plus de nourriture que ce dont tu as besoin, toi, pour vivre, toi et ta famille, tu peux du coup produire de la nourriture pour des gens qui vont faire autre chose que produire de la nourriture. Et cette question de la productivité est parfois un petit peu, je ne vais pas dire maltraitée, mais enfin, vue de manière très, très négative, ce qu'on comprend évidemment, parce qu'on a des problèmes d'excès dans nos sociétés, comme peut-être partout, mais aujourd'hui qui sont très sur le devant de la scène, parce que certains excès du capitalisme, moi je ne suis pas un condamnateur éternel du capitalisme du tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles il faut mettre le holà, et puis la question environnementale, et donc on a tendance, je crois, à voir la tech comme, chez certains, néfaste par essence. Et moi, je ne crois pas que ça soit le cas. Il y a le monde dans lequel on vit n'existerait pas sans les progrès technologiques. Le truc, c'est que il faut parfois un petit peu mettre la bride, contrôler, orienter, etc., et s'assurer que si on peut, autant que possible, les côtés négatifs soient le moins important possible et maximiser les côtés positifs. Donc, dans les robots, Je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais il y a de ça, comme dans toute la tech, évidemment. On fait de la technologie et de la politique de comptoir aujourd'hui, c'est très bien. Ça me plaît. Du coup, dernier gros sujet, c'est un article du Figaro, de l'excellente Chloé Wattier, sur Zepeto, qui est un monde virtuel que certains appellent un métavers. J'aime pas appeler ça métavers, parce que pour moi, le métavers ultime, ça serait potentiellement autre chose, mais qui est un monde virtuel qui est à mi-chemin entre un jeu vidéo et un réseau social dans lequel on se crée un avatar et on interagit avec les autres avatars de ce monde. Jusque-là, rien de bien incroyable, mais ils ont réussi à trouver une formule qui fonctionne extrêmement bien. Et ce qui m'a interpellé encore plus que le reste là-dedans, c'est le fait qu'ils ont, dans ce monde virtuel, une fonctionnalité qui est équivalente au réseau social TikTok, sauf qu'on ne va pas prendre des TikTok de nous-mêmes, l'utilisateur, mais de l'avatar virtuel qu'on a créé. C'est-à-dire qu'on a genre, c'est Inception, quoi, c'est le réseau dans le réseau. Le réseau social TikTok va suivre la vie des avatars. Donc l'avatar va prendre son truc et faire sa petite vidéo pour montrer ce qu'il fait, machin. J'ai trouvé ça assez fascinant, assez intéressant. La raison pour laquelle Chloé a fait son article, c'est qu'ils essayent aujourd'hui de lancer... Donc Zepeto essaye de lancer le réseau en France et il commence à payer des influenceurs pour... naviguer dans le réseau, en parler, etc. Mais ce TikTok d'avatar, moi, ça m'a un petit peu frappé. J'ai trouvé ça intéressant.
Bah, c'est... Ouais, enfin bon, là, décrit comme ça, ça me fait penser beaucoup à Second Life version mixée avec le Metaverse. Il y a un peu de ça. Mais après, sur le côté artiste virtuel, c'est pas tout à fait nouveau. T'avais quand même une chanteuse japonaise, là... C'est Hatsune Miku, je crois qu'il s'appelle, qui existe depuis très longtemps.
Donc, ça, il y en a plein, il y a des VTubers partout. Non, mais là, c'est que chacun crée son avatar et les utilisateurs du l'univers 3D ont un réseau social à l'intérieur du truc dans lequel ils vont interagir en tant que leur avatar. Donc, c'est le TikTok pour les avatars. Ce n'est pas juste une influenceuse virtuelle ou influenceur virtuel qui va être sur TikTok. C'est un TikTok interne au truc où les avatars se parlent entre eux en disant « Ah, t'as vu, moi, je m'appelle Super Patrick, je suis explorateur spatial et là, je fais mon TikTok depuis la station spatiale virtuelle de Zepeto, tu vois. » C'est bon, je sais pas, moi, ça me fait marrer.
Ah, peut-être bientôt notre Patrick dans Zepeto pour faire une version TikTok Zepetoifiée du rendez-vous tech, du rendez-vous jeu. Ce serait quoi, pardon ?
Bot Patrick, tu sais mon...
Bot Patrick, pas c'est... mal
ouais, ah,
c'est
ouais,
bon, c'est à déposer, ça.
Il a sa présence sur Twitter, Bot Patrick 77. Il n'a pas tweeté, je ne sais pas ce qu'il fait depuis très longtemps, mais il est là-bas. Et en fait, Bot Patrick, c'est le bot de mon Discord qui poste certains trucs. Donc,
77 parce qu'il vient de Seine-et-Marne ou rien.
Pas du tout, parce que je l'ai créé pendant l'event Battle.
En 1977.
Pendant l'event, oui, c'est ça. Il a voyagé dans le temps. Non, pendant l'event Battle 4, pendant lequel j'avais fait 767 pompes, mais il n'y avait plus assez de caractères pour faire notre Bot Patrick 767. Et donc, j'ai raccourci en faisant 77. Voilà. Vous savez tout sur le... Enfin, je dis j'ai. C'est peut-être pas le cas. Hein. Ça se trouve, c'est juste qu'il a choisi son nom comme ça. C'est la genèse du...
Bienvenue dans le Patrickverse.
Et voilà pour nos sujets principaux. J'aimerais prendre une toute petite seconde pour remercier les gens qui ne sont pas du tout... des robots ou des intelligences artificielles, eux et elles, ce sont les vrais humains qui financent le rendez-vous tech sur patreon.com/rdvtech. Ils vont à cette adresse, ils choisissent une somme à attribuer aux épisodes de cette émission qu'ils apprécient et à la fin du mois, ils sont facturés tout simplement pour leur soutien à l'émission. Ils ont des contenus supplémentaires, ils ont accès à un Discord étendu où on parle de plein de sujets, de trucs sérieux comme politique, société, mais aussi de films, de mangas, de plein de trucs super cool. Et vous savez que le Discord est un endroit accessible à tous, même si on n'est pas Patreon, où la bienveillance et la gentillesse règnent. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours le cas sur Twitter. Donc, vous pouvez venir même si vous n'êtes pas patriote. Mais si vous êtes patriote, vous avez accès à une section étendue. Et ça, c'est plutôt très cool. Et surtout, vous avez, comme je le dis souvent, le plaisir, peut-être même la fierté de soutenir un créateur que vous appréciez. Donc, allez voir sur patreon.com/rdvtech. Si vous pouvez le faire tout de suite, là, maintenant, sur votre smartphone. Ça marche sur tous les smartphones connus. Android, c'est quoi l'autre ?
Même iOS, les Fairphone.
Même les Fairphone, oui, complètement. Même les Windows Phone, si vous en avez encore un. Vous pouvez tout à fait faire ça là-bas. Ou alors, quand vous rentrez chez vous, si vous avez oublié, eh bien, vous jetez les clés dans le vide-poche, ça fait cling, et là, oh, je le savais, pourtant, vous vous mettez à pleurer et tout ça. Mais non, c'est pas la peine, pas de crise. Vous pouvez juste corriger cette erreur presque impardonnable, mais en fait tout à fait pardonnable, en allant sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et on continue. Ah merde. Je devais pas dire et on continue. Bon, le reste de l'actu. Parlons un petit peu d'IA. Vous savez que...
Ah, ouais. Ça faisait longtemps.
Oui, on s'est retenu. Mais il y a plusieurs sujets assez intéressants sur l'IA, notamment du côté de OpenAI. OpenAI qui est évidemment la société qui édite ChatGPT, qui a lancé la révolution de l'IA générative textuelle. OpenAI dont le président a témoigné au Congrès et qui a affirmé que l'IA avait besoin d'être régulé, il fallait légiférer sur l'IA. Et il a continué, alors je vais vous dire un petit peu ce qu'il a dit, mais ils ont réitéré la chose en disant qu'il faudrait une agence internationale de régulation de l'IA, au même titre qu'il y a l'agence atomique internationale, ce genre de choses, parce qu'il faut vérifier que certaines sociétés qui atteignent une certaine taille ou qui ont une certaine influence fassent les choses correctement, ou, etc., etc. Bref. Que les choses soient, bah, comme on le disait à l'instant, hein, il faut que ça soit orienté sérieusement. Il y a quelques trucs qu'il a mentionnés spécifiquement. Donc, il parle d'une agence gouvernementale dans le cadre des États-Unis. Il a parlé d'une agence internationale ensuite. Il a parlé de la création de standards de sécurité pour les modèles d'intelligence artificielle. Et il a parlé d'audit également, fait par des experts indépendants, sur les modèles existants pour ce qui est des performances et de différentes données. Il parle de biais également, tous ces sujets qu'on évoque régulièrement. Une chose dont il ne parle pas, ce qui est intéressant, c'est souvent le cas, alors je ne sais pas quelles sont ses intentions à lui, mais quand ces grandes sociétés appellent de leur vœu la régulation, il y a une part de sincérité certainement, mais il y a aussi peut-être la possibilité d'orienter les choses comme ils le souhaitent pour que pas que ça aille dans les domaines qui les dérangent. Un truc dont il ne parlait pas, Sam Altman, c'était le fait d'exiger des modèles d'IA qu'ils soient plus transparents sur le type de données qu'ils utilisent pour leur entraînement, par exemple. Ce genre de choses, on sait que ça les arrangerait pas chez OpenAI. Mais il n'empêche, en parallèle d'une activité qui ne s'arrête pas chez OpenAI, ChatGPT est disponible sur iOS aux États-Unis, pas encore en Europe, mais il arrivera. Là, c'est des questions de régulation, justement, de législation. Et puis le fait que, il continue à avancer, même avec ChatGPT qui est hyper populaire. Il y a du coup cette volonté qui semble être partagée par d'autres membres de l'industrie de l'intelligence artificielle de dire il faut qu'on légifère, quoi. Il faut que les choses soient régulées parce que le pouvoir de disruption est extrêmement important. Donc c'est intéressant de voir qu'eux-mêmes le disent, peut-être pour ne pas se le prendre dans la figure ensuite. Et justement, peut-être que sur ce point... Ah oui, tu voulais dire quelque chose, Christophe, vas-y.
Ah ouais, non, je suis chaud sur ce sujet.
Ah, mais en fait, alors, vas-y. Tu veux que je parle de Bruno Le Maire avant ou...
tu sentais pas que je...
Si, tu trépignes, vas-y.
Ah, je vais trépigner. Alors, j'ai bossé dans ce domaine-là il y a quelques années, en fait, sur des technos similaires, mais c'était... Enfin, c'est les mêmes technos, mais qui n'étaient pas encore à ce stade-là de maturité et surtout d'utilisabilité. Et c'est des sujets qui étaient déjà présents, c'est-à-dire que tout ce qui est explicabilité... Alors, pour moi, il y a deux choses derrière cette partie légifération. Il y a le modèle en lui-même, c'est-à-dire que la techno, comment elle a été construite, sur quelles données elle est basée. Et le problème, c'est que ces données, aujourd'hui, c'est la mine d'or de ces systèmes-là. C'est-à-dire que technologiquement, on va dire l'algorithme qui tourne derrière, il est connu depuis plusieurs années, et globalement, tout le monde, enfin, presque tout le monde peut l'implémenter, pour peu que tu aies beaucoup d'argent et des gros serveurs pour faire tourner l'entraînement. Mais le vrai, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas tant que ça qui le font. C'est que les gros qui peuvent sortir ces modèles-là, c'est les Microsoft, Facebook, Google, OpenAI, parce qu'ils ont suffisamment d'argent ou de serveurs pour les faire tourner. Après, la vraie mine d'or derrière qui se cache, c'est les données sur lesquelles tu l'entraînes. Et aujourd'hui, c'est ça où tu n'as aucune transparence. C'est-à-dire que la plupart des technos aujourd'hui utilisés dans les algorithmes, ils sont la plupart du temps dispo sur des papiers de recherche. C'est-à-dire que si tu t'intéresses au domaine, tu peux avoir des papiers qui vont t'expliquer comment ça marche, comment l'implémenter toi-même, comment créer l'architecture de ton réseau de neurones, tu vas pouvoir travailler là-dessus. Par contre, il te faut les données pour le faire tourner. Et aujourd'hui, il n'y a aucune transparence sur ces données. Donc, tu ne sais pas sur quoi ils sont entraînés, même s'ils vont te le dire un petit peu vite fait, tu n'as pas accès là-dessus. Donc, tu peux avoir effectivement tous les problèmes dont tu as mentionné, dont les biais, mais tu peux aussi avoir des problèmes de copyright, c'est-à-dire quelles sont les données que tu as utilisées, est-ce qu'elles sont vraiment à toi, est-ce que tu as consommé des données des autres, etc.
Une des questions qui occupe l'Union européenne très, très, très activement, notamment la question du copyright. Ouais.
Et exactement. Et alors après, c'est ça qui aujourd'hui... Alors, c'est ça qui va faire aujourd'hui énormément pour la qualité et la performance du modèle donné qui va sortir. Ça va énormément être basé sur les données. Les technos sont aujourd'hui à peu près, même si tu as la course au nombre de paramètres, on parle beaucoup des milliards de paramètres, etc. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ce qui fait la grosse différence. On atteint un niveau où c'est plus vraiment ce qui va faire la différence. Les données et les cas d'usage que tu veux en faire sont plutôt ça. Et pour moi, sur la légifération, je devrais, enfin, sur la loi, je la vois sur deux côtés. C'est-à-dire que sur ceux qui vont produire ces modèles-là, quelles sont les données qu'ils ont utilisées ? Est-ce qu'ils se sont assurés que derrière, au niveau de la qualité, au niveau des biais, effectivement, que ce soit tous les biais possibles que tu peux imaginer, ils ont fait un travail nécessaire pour s'assurer que le modèle derrière, il va être un minimum. Et c'est là, en fait, où il faut peut-être définir un standard, je ne sais pas, et une agence pour réguler ça, un minimum, on va dire, respectable sur ce qui va pouvoir sortir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur les usages que tu en fais. C'est-à-dire que tu as deux travers. Tu as ceux qui vont éditer ces solutions et ceux qui vont s'en servir. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas t'en servir pour faire tout et n'importe quoi, pour produire des contenus qui sont pas produire. Je ne vais pas citer. Non, mais je ne vais pas rentrer dans.
Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a des questions énormes qui se posent là-dessus. Oui.
Donc, c'est sur ces deux côtés que je vois la loi aujourd'hui. Et je pense que c'est le bon moment pour se le poser maintenant. On a atteint un niveau avec ChatGPT notamment. ChatGPT a mis en avant en fait, cette techno qui existait depuis très longtemps, un niveau d'usage où tout le monde quasiment peut s'en servir et se rend compte de l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'avant ChatGPT, il fallait vraiment avoir des ingénieurs assez pointus pour implémenter des technos similaires, à mettre ça dans des outils, etc. Et tu avais des petits cas d'usage qui étaient au cas par cas. Là, tu arrives sur un cas qui est vraiment très répandu. Donc, on arrive vraiment sur la compréhension de tout le monde, de l'impact que ça peut avoir. Et je pense que c'est le bon moment pour le faire, pour se poser ce genre de questions. Donc, je pense que c'est plutôt sincère de la part d'OpenAI, de la part de Sam Altman de se poser cette question maintenant. Et je pense qu'il faut le faire parce que ça va très vite arriver. On va très vite tomber dans les travers avec. On commence à le voir avec l'usage que provoque ChatGPT notamment.
C'est juste un petit peu ironique que ce soit OpenAI qui fait un petit peu marche arrière sur une démarche de mise à disposition un peu open source ces technos qui prétendent ça. Mais bon, mais c'est plein de bon sens, effectivement, ce que tu soulignes.
Il y a justement, à propos de personnalités politiques qui s'intéressent à ces sujets et gouvernements qui s'intéressent à ces sujets, on parlait ces dernières semaines de l'Union européenne qui veut légiférer sur ces questions. Il y a un extrait d'une déclaration de Bruno Le Maire qui a beaucoup tourné sur Twitter ces derniers jours, ou à vrai dire ces dernières 24 heures, où il explique qu'il faut des signalements systématiques lorsqu'une image est générée par ChatGPT et que ça doit être souligné. Il parle de la législation de l'IA et de la manière dont il faut en essayer d'en limiter les travers. Évidemment, quand il parle de signalisation d'images générées par IA, il pense essentiellement à la désinformation, mais pas forcément. Et c'est un sujet important. Moi, ça m'a beaucoup énervé. Ça m'a irrité parce que les réactions sur Internet et sur Twitter notamment. C'est pas très surprenant parce que Twitter, c'est fait pour ça. Mais la plupart des réactions, c'était « Ah ah ah, regardez, Bruno Le Maire dit que ChatGPT génère des images, alors que pas du tout, ChatGPT, il génère du texte et c'est pas du tout des images qu'il fait. Ah ah, oh bah ça va être facile, hein, puisque ChatGPT fait pas des... » Et vraiment, ça m'a mis des images de...
Je suis assez d'accord.
C'est, tu sais, c'est le nerd dans la classe qui remonte ses lunettes, qui dit « Well, actually, ChatGPT ne génère pas d'images, monsieur le maire, je vous ferai remarquer. » Et c'est se concentrer sur... Effectivement, il a fait une erreur, c'est pas un spécialiste de l'IA, le gars, il y a plein de termes qui lui tournent dans la tête. Moi, ce que je retiens, c'est que les gouvernements, alors le gouvernement français, le gouvernement européen, d'une manière générale, dans le monde, il semble que les responsables politiques ont pris la mesure de l'importance de cette technologie, là où ça a pris des années et des années pour des technologies disruptives comme la gig economy ou d'autres. Enfin, il y en a eu plein dans la technologie ces 20 dernières années. Et là, ça fait même pas un an que ChatGPT est disponible, même pas un an que Midjourney est disponible, et tout le monde s'y intéresse et en parle de manière, semble-t-il, relativement cohérente. Il semble comprendre les enjeux, les raisons, etc. Donc, bon, le fait que tout le monde pointe du doigt et rigole, ça m'a irrité. Mais voilà.
C'est un terme aussi, ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le fait de dévier le sujet du débat sur un détail comme ça.
C'est pas du gaslighting, non, mais c'est...
Non, je ne sais plus.
C'est plus intentionnel et comment dire, maléfique, mal intentionné.
Ouais, et c'est fréquent. Mais ouais, enfin, t'as pas trop pris parti sur ça, Patrick. Mais...
Bah, sur le fait qu'il... Oui, bien sûr. Sur le fond, moi, je pense que évidemment qu'il y a mille exemples de situations et de cas où ça va être inutile ou mal utilisé, ou que comment on va le déterminer. Est-ce que si tu changes, j'en sais rien moi, un morceau de cheveux par IA, comme les retouches sur les images. Tu changes un morceau de cheveux par IA, est-ce que ça veut dire que tu dois mettre le label, machin ? Oui, bien sûr qu'il va y avoir des cas où ça ne s'applique pas, où les acteurs véritablement mal intentionnés, ils ne vont pas se plier aux règles du gouvernement et mettre gentiment, comme tous les criminels, quoi, on va dire. Mais ce n'est pas parce qu'il est possible de contourner des lois ou des règles qu'il ne faut pas les établir. Et c'est une comparaison que je fais parfois. Le fait qu'on ait les manger-bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, machin... Oui, tout le monde le sait. Oui, c'est un peu con de voir l'afficher sur toutes les affiches de fast-food dégueulasses. Moi, j'adore le McDo, mais tu vois, ou de nourriture qui est pas très bonne pour la santé. Oui, mais il n'empêche que, du coup, tout le monde sait qu'il faudrait manger 5 fruits et légumes par jour. Bah oui, c'est quand même un truc comme avec les images retouchées. Il faut mettre cette image et retouchée. Bah, les gens sérieux, ils vont, du coup, briser la confusion. Si on utilise une image avec IA, comme ça sera sans doute le cas de l'illustration de cet épisode sur frenchspin.fr, eh ben, il faudra dire « cette image a été générée par IA ». Alors là, je vous le dis dans le podcast, et bon, vous le savez, généralement, on sait les repérer, mais c'est une hygiène de compréhension médiatique qui est aidée par ce label, et moi, je trouve ça positif, quoi. C'est pas la solution ultime, évidemment, mais je trouve ça positif. Dites-moi que j'ai tort.
Non, pour le coup... Ah, oui, tu veux la contradiction ? Ouais, non, mais qui va le lire ? Comment tu vas mettre ça en place sur les sites web ? Ça va être n'importe quoi, sachant que les images sont déjà toutes retouchées et que ce n'est pas déjà le cas sur les illustrations. Les banques d'images, j'imagine, c'est la fin des banques d'images. J'imagine l'industrie des banques d'images qui vont... Shutterstock, ils sont morts. Mais parce qu'aujourd'hui, tu vois, typiquement, sur les images qui sont utilisées pour toutes les illustrations, c'est quasiment pas mentionné, tu vois, tous ces trucs-là. Donc, est-ce que ça va devenir tellement utilisé que ça va devenir plus de bruit, comme les cookies, tu vois. Les cookies aujourd'hui, c'est un pain, j'arrive pas à le dire. Enfin, c'est une souffrance quand tu vas sur tous les sites avec les panneaux dans tous les sens. C'est devenu horrible. Est-ce que tu vas avoir le même travers avec l'affichage de cette image qui est générée, etc. Parce que ça va devenir tellement la norme que tu l'auras tout le temps partout, en fait. Donc autant te dire que c'est la norme et puis basta. Et puis,
t'as pas besoin d'afficher. Je trouve que. Effort correct de. Attends, c'était l'autre, j'ai perdu mon truc.
Voilà,
je dirais, allez, 6,5 sur 10, Christophe, pour cet avocat du diable. C'est plus bon, que la moyenne.
On encore.
Ouais, Guillaume.
Je trouve que ce que font certains sites va dans ce sens-là. Et bon, tu vas sur Numérama ou sur d'autres sites d'actu. Maintenant, quand il y a des images générées par intelligence artificielle qui servent d'illustration, ils le mettent clairement en dessous. Je trouve que c'est une démarche qui est plutôt saine. Et il y avait une fonctionnalité De Google Images qui a été présenté à la Google I.O. qui justement allait dans ce sens-là aussi, hein, qui apportait du contexte à une image, notamment pour donner un petit peu d'origine sur le fait que ça puisse être une image générée par une intelligence artificielle ou qui puisse être détournée d'ailleurs, comme c'est déjà le cas avec Google Images aujourd'hui. Et je pense que c'est pas inintéressant au moins de poser ces questions, même si effectivement la solution elle est pas simple et elle peut pas être simpliste, pour que l'industrie se mette en ordre de bataille et puisse dire de manière un peu collégiale bah, comment est-ce qu'on peut faire mieux les choses pour la transparence, pour le grand public. C'est clairement pas une solution facile qui pourra être apportée.
Je crois que t'as raison, et la conclusion de ça, en fait, c'est que le grand danger de l'intelligence artificielle, c'est la confusion, et on en parle depuis des mois maintenant, la confusion entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Et tout ce qui peut aider à atténuer cette confusion ou au minimum à rendre le public conscient de la différence, je pense, est bon à prendre. Donc cette proposition, je suis sûr qu'il y en a plein des propositions, mais cette proposition en particulier qui a fait jaser, moi, me paraît pas si ridicule que ça. Bon.
Oui, Crix33 parle dans le chat de l'affichage du copyright. Mais effectivement,
c'est, oui, c'est ça.
Une belle analogie à faire.
Où il y a la modification par informatique, par Photoshop, machin, truc. Bon. Les écoles de New York ont changé leur fusil d'épaule dans la bataille contre l'IA. Ils ont... Pardon ?
Non, pardon. C'était le jeu de mots, d'accord. Mais pas drôle.
OK. La ville de New York a changé la décision de bannir l'IA dans les écoles de la ville et vont au contraire désormais soutenir les professeurs et les étudiants qui vont apprendre et explorer l'IA. Je trouve que c'est là encore un exemple d'un organisme gouvernemental, enfin d'administration, qui prend la bonne décision, je crois. Et on en a déjà parlé aussi. Il vaut mieux apprendre et connaître ce qui fait partie du monde aujourd'hui plutôt que... et puis on a eu, là pour le coup, quand on parle de fake news, vous pourriez penser que c'est un truc qui m'a comment dire, où je vais tirer la sonnette d'alarme. Il y a un compte vérifié sur Twitter qui s'est fait passer pour Bloomberg, qui a diffusé des images fausses d'une explosion au Pentagone, je crois, oui, c'est ça, au Pentagone, ce qui a fait chuter la bourse. Et là, vous dites, oh mon Dieu, ça y est. Alors, il y a tous les mots parfaits. IA, Twitter Blue et Pentagone et bourse. Mais en réalité, effectivement, la bourse a légèrement chuté de 0, c'est aux États-Unis, hein, de 0,20%, un truc du genre, un peu plus, et c'est très vite rétabli. C'est pas ce genre de choses qui me fait vraiment très peur, parce que là, bon, il suffit de bannir le compte Twitter, tout le monde s'en rend compte, c'est tellement gros. Voilà. Donc, mais c'est un exemple de ce que ça pourrait donner, mais c'est pas cet exemple où je vais dire « Ah mais regardez, voilà, c'est ce dont je parlais !» Non, là, ça dure 2 secondes, ça fait quelques articles, il y a tous les buzzwords, mais ça va pas plus loin. Par contre, un truc qui est vraiment intéressant, c'est Forever Voices. Vous connaissez Forever Voices ? C'est un service [S2] Non. [S1] Qui crée des voix par IA générative pour des personnes connues ou non. Et en l'occurrence, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à vendre des services, j'en parlais la semaine dernière, je crois, de chat vocal avec leur avatar virtuel. Et c'est le cas notamment, alors il y en a eu d'autres, mais elle est particulièrement connue, de Amaranth, qui est une personnalité assez connue sur Twitch, donc le service de streaming, et alors elle flirte avec les limites de ce qui est autorisé sur Twitch au niveau du contenu à caractère sexuel, mais elle est également sur, ça y est, j'ai perdu le nom, la plateforme de OnlyFans, voilà. Sur OnlyFans, où elle propose du contenu payant à caractère extrêmement sexuel. Et en l'occurrence, elle a créé une voix virtuelle, enfin une voix par IA, à partir de sa propre voix, et elle, avec l'intermédiaire de Forever Voices, elle vend des minutes de parole avec elle, carrément en disant « je peux être votre petit ami virtuel dans un service ». Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont créé des voix, mais ils n'étaient pas aussi clairs et pas aussi ouverts et honnêtes sur le fait que, bah voilà, c'est petit ami virtuel. Il y a même, on peut parler comme on parlerait avec ce qu'on appelait à l'époque le téléphone rose et avoir des conversations vraiment sexuelles, quoi. Et elle est assez claire sur ce point. Et donc, il faut payer, j'imagine, à la minute ou ce genre de choses. Ça va lui faire beaucoup, beaucoup d'argent, je n'en doute pas. C'est marrant parce que le parallèle avec Her, là encore...
C'est exactement ça.
Et voilà. L'article de Polygon le mentionne spécifiquement. Her est sorti il y a 10 ans. Vous vous souvenez peut-être de ce film où un type tombe amoureux de son intelligence artificielle qui est, dont la voix est jouée par...
C'est Scarlett Johansson, non ?
Voilà, merci. Exactement. Et bref, c'était il y a 10 ans. Et on se dit, oh, bah oui, c'est pas pour tout de suite. C'est de la science-fiction, peut-être que dans 50 ans. Et maintenant, alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'évidemment, l'IA, elle va finir par dire des trucs un petit peu bizarres et un petit peu débiles. Mais, il n'empêche, on en est beaucoup plus proche que ce que j'aurais pu imaginer 10 ans plus tard, quoi.
Mais évidemment, mais regarde, demain, tu prends ChatGPT pour rédiger des articles que tu fais lire par Forever Voices et tu fais des podcasts automatiquement.
Eh bien, figure-toi, voilà, alors attends,
ça y est.
Je vais vous repasser ma voix de Eleven Labs avec la voix Patrick Français. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire lire? Un article, si vous voulez que je vous lise, l'article de...
C'est qui va s'en servir le plus, ça va être les plateformes de livre audio. Tu vois, bah, tu prends la voix de quelqu'un, tu prends un bouquin et crac, c'est parti.
L'article de Numérama dont je parlais, je vais vous le faire lire par ma voix immédiatement. Vous devriez l'entendre là. C'est en train de générer. Là,
le ministre de l'économie et des finances est intervenu devant les parlementaires européens pour défendre l'ajout d'un indicateur sur tous les contenus générés par l'intelligence artificielle. Ce bandeau est nécessaire pour la transparence, a-t-il défendu. Mais l'applicabilité de cette exigence comporte des questions à résoudre.
Alors encore une fois, là, vous avez ma vraie voix et puis la voix là. Peut-être que
tellement l'original, Patrick.
Mais, ah, merci, merci. Bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais on n'en est pas loin.
Ouais, c'est pas loin. C'est assez impressionnant.
Il y a quand même le syndrome, tu sais, de la vallée de l'étrange, quoi. C'est-à-dire qu'on s'approche, ouais. Au-delà de la ressemblance avec toi, il y a ce côté très proche d'une voix humaine, etc. Mais ça reste encore un petit peu suffisamment artificiel pour que ce soit dérangeant, quoi. Mmh. Mais ça va avancer.
On n'est pas loin quand même. Hein. Sur l'audio, t'es moins sensible que sur le côté visuel, la partie robotique, la vallée de l'étrange, tu vas vraiment la voir sur le côté physique.
Ouais, ça peut. Pour les vrais amateurs oui. de voix et de podcast, ça fait un petit peu...
Tu devrais faire un test auprès de la communauté, tu devrais faire un quiz. Est-ce que c'est Patrick qui a réellement lu ce texte ? Parce que c'est une par là pour voir les vrais, tu vois.
Mais je précise que cette voix de bot Patrick, elle a été générée avec quoi ? 3-4 minutes de voix en 2 secondes sans régler les réglages. Je pourrais vous la changer un petit peu. Je vais mettre un peu moins de stabilité dans la voix et je mets un peu... plus de un peu moins de clarté. Allez, je vais mettre tout à zéro pour voir à quel point on peut la faire changer. Je régénère le même texte. Il y a des petits réglages qu'on peut faire. Vous allez voir que
l'économie et des finances est intervenu devant les parlementaires européens pour défendre l'ajout d'un indicateur sur tous les contenus générés par l'intelligence artificielle. Ce bandeau est nécessaire pour la transparence.
Alors là, j'ai mis tous les potards à zéro. Si je mets tous les potards à 100, tu vas voir que c'est une voix encore différente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est possible de régler, de tweaker, de mieux enregistrer. Et puis, c'est un modèle qui n'est pas basé sur le français à la base. Et du coup, c'est vraiment 2 secondes que j'ai fait ça.
Le ministre de l'économie et des finances est intervenu devant les parlementaires européens pour défendre l'ajout d'un indicateur sur tous les contenus générés par l'intelligence artificielle. Ce bandeau est nécessaire pour la transparence, a-t-il défendu.
Donc, on peut régler, on peut faire une meilleure voix, et ça, c'est le travail de 14 secondes, quoi. Donc, bref.
Ouais, puis avec tout le volume de contenu que tu as, en plus, il y a moyen d'avoir un paquet de données pour entraîner un modèle comme ça, c'est dingue.
Je vais téléphoner à Forever Voices pour que vous puissiez avoir votre petit ami Patrick virtuel pour seulement 1 euro la minute.
Sur OnlyFans aussi, c'est ça ?
Mais écoute, moi je suis... Tant que ça rapporte des euros la minute, moi je suis ouvert à toutes les propositions.
Pour faire de l'ASMR, j'ai entendu que tu avais une certaine partie de ta communauté qui écoutait les podcasts pour s'endormir, ça peut être parfait.
Christophe, nous allons finir le podcast comme ceci. Bon, on continue donc avec...
Qui t'étonne que tes épisodes sont trop longs après, Patrick, enfin. Non, mais oh.
Non, mais il y aurait des choses à faire. On me propose dans la chatroom, petite balade dans les bois avec Patrick en VR. Ah, Tu vois, c'est plus seulement la voix virtuelle, mais également le Patrick virtuel qui vous amène dans les bois virtuels avec les loups virtuels. Il y a des choses à faire. Meta aussi a des choses à faire, puisqu'il semblerait être en train de parler à leur plus gros créateur de leur nouveau réseau décentralisé basé sur le texte. Alors, quand je vous dis ça, vous allez penser à Twitter, et on en entend parler, c'est Barcelona, je crois, le projet, depuis un bon moment. Et effectivement, ça semble être le cas. Là où c'est intéressant, c'est que le réseau serait compatible avec Mastodon. Et on imagine, du coup, basé sur Mastodon. Et ça serait une application complètement indépendante qui reprend une bonne partie des caractéristiques de Twitter. C'est sans doute l'opportunité la plus importante de remplacer Twitter, parce que c'est un réseau qui est déjà populaire, et il y aurait du coup les followers qui seraient importés, une partie du contenu, pas du contenu des photos, mais qui serait importé, etc., etc. Le truc marrant, c'est qu'on remplace du coup Twitter par Facebook, enfin par Meta, et donc on ne s'en sort pas. Mais il y a une véritable possibilité pour Meta, du coup, de renverser le game sur ce point-là.
Enfin, mais je me demande si c'est pas le meilleur des deux mondes, cette histoire, avec toute la beauté que peut représenter un réseau décentralisé. En fait, techniquement, j'imagine que tu pourrais ne pas dépendre techniquement sur le long terme des services de Meta, et en même temps de bénéficier, il faut le reconnaître, de cette force de la communauté qu'il y a sur les produits de Meta, notamment Instagram, hein, qui c'est plus à démontrer. J'arrive à me demander si effectivement c'est pas la plus belle opportunité qu'on ait trouvée à ce stade, si tout se confirme, d'utiliser un réseau décentralisé pour la première fois de manière crédible. Moi, j'adore Mastodon, mais il faut reconnaître que notre paresse intellectuelle qu'on s'est installée pendant des années fait que l'appropriation de l'outil, au départ, elle est un peu abrupte, quoi. Donc oui, aidez-nous, Meta, aidez-nous. Enfin.
Non, mais ça va plus loin encore, Mastodon. Je continue à poster dessus de temps en temps, mais moi, j'abandonne, quoi. J'ai plus d'activité du tout. Je poste, j'ai l'impression d'être dans un désert et je veux dire, je fais un podcast.
Il n'y a pas la quantité. Moi, j'ai la qualité des interactions. J'ai des échanges qui sont hyper intéressants sur Mastodon que j'avais pendant un temps sur Twitter, mais que j'ai désormais sur Mastodon. Mais effectivement, tu as raison, ce n'est pas ça qui va drainer des millions d'écoutes sur tes podcasts, j'imagine.
Disons qu'on va voir comment ils utilisent Mastodon. Ça sera intéressant. Il y a quelqu'un dans la chatroom qui mentionne Blue Sky aussi, le réseau fondé.
Le nouveau projet de Jagger Steve.
Alors moi, je ne suis pas encore sur Blue Sky, mais il semblerait que ça soit aussi...
Je crois que c'est sur invite uniquement, pour l'instant, c'est en privé.
Et à propos de Twitter, après la nomination de Linda Yaccarino à la tête de Twitter, il semblerait que vous savez qu'elle s'occupait de la publicité, c'est chez CBS, je crois, les annonceurs sembleraient se dire « Bon, bah, peut-être qu'on va retourner chez Twitter, du coup. » Des agences qui disent « C'est bon, vous pouvez y aller, tout ça. » Donc, bon, les choses pourraient se débloquer également sur Twitter. Est-ce que le prochain Twitter ne serait pas juste Twitter? On verra. Apple. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'Apple. Plusieurs choses du côté d'Apple. D'abord, ils ont commencé à communiquer sur tout le travail incroyable qu'ils font sur leur App Store, le nombre de transactions frauduleuses qu'ils ont bloquées pour aider les développeurs, tous les trucs qui font que l'App Store, c'est pas juste la plateforme, mais aussi la modération et le travail qu'ils font dessus, évidemment, en anticipation de la loi qui arrive en 2024, qui imposera à Apple en Europe d'autoriser les App Store tiers, et donc s'ils disent bah, « notre App Store, il est mieux que les autres », en gros. Ils ont également commencé à faire un travail un peu plus concret dans la recherche et le développement sur les écrans micro-LED. Là où c'est intéressant, c'est que les écrans micro-LED, c'est une technologie qui est, on va dire, la dernière technologie qui commence à être implémentée dans les écrans. Et là où c'est intéressant, c'est que Apple, traditionnellement, n'est pas très impliqué dans le matériel, mais ça leur permettrait d'être moins dépendants de Samsung, qui leur fournit énormément d'écrans. Si eux-mêmes se mettaient à produire leurs propres écrans, ça serait surprenant, parce qu'Apple ne fait pas ce genre de choses.
Ils l'ont fait pour les CPU, regarde. Enfin, moi, ça ne me choquerait pas. Hein.
Alors, ce n'est pas qu'ils produisent hein, les CPU, ils les designent, mais ils envoient
d'accord, c'est vrai.
Là, pour les micro-LED, ils ont commencé à passer à comment ça s'appelle, une étape technique, ça s'appelle la masse quelque chose, j'ai lu dans l'article, mais à tester la faisabilité technique du fait. Alors peut-être qu'ils vont pas aller à produire, ils sont juste en train de tester pour voir, pour comprendre comment ça marche. Mais ça serait une possibilité pour eux peut-être à l'avenir. Et puis il y a beaucoup d'articles sur les casques de réalité mixte et le casque de réalité augmentée qui sont un petit peu inquiétants, on va dire. Le casque de réalité mixte, donc AR et VR, va être présenté à la WWDC. Beaucoup de témoignages, comment dire, c'est pas des rumeurs ou des leaks, mais c'est des témoignages anonymes qui semblent indiquer que en interne, le projet a été largement revu à la baisse au cours des années. Et pour ce qui est de l'étape 2, qui était censée être des lunettes de réalité augmentée, qui étaient vraiment des lunettes très légères, qui permettaient d'afficher des choses sur l'écran, donc comparables à des lunettes plus que des casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, il semble dire poliment qu'on est à 4 ans de la sortie. Dans la pratique, c'est un petit peu, bon, bah, c'est tellement infaisable techniquement qu'on le laisse quelque part dans un placard et puis on verra si on peut le ressortir un jour. Donc, bon.
Au niveau du matériel, tu veux dire, de qualité de rendu telle que Apple pourrait l'attendre pour avoir quelque chose de suffisamment impactant.
C'est plus que ça. Tim Cook voulait des lunettes légères qui puissent afficher une image en réalité augmentée et qui ait une performance, comment dire, de puissance de calcul suffisante pour pouvoir faire tourner des applications, etc.
Et pas des Google Glass, quoi.
Voilà, c'est ça. Le fantasme des lunettes de réalité augmentée. Et après des années de travail, il semblerait que les équipes disent « Oui, alors on aurait besoin de 10 fois plus de puissance que ce qu'on peut mettre là-dedans, de 10 fois plus de batterie, etc. » Donc, c'est pas faisable. Donc, on verra dans 4 ans, mais bon. Donc, je m'inquiète.
Ouais, mais ça m'étonne pas. Et c'est d'autant... Enfin, et tant mieux pour eux. C'est-à-dire que s'ils peuvent se permettre d'attendre pour sortir quelque chose quand ça sera prêt, il vaut mieux ça que sortir quelque chose qui est intermédiaire et qui va faire un flop. Donc ça, c'est plutôt bien. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se le permettre. Apple, tant mieux pour eux. Sur la partie VR, moi, il y a un truc intéressant que je note, c'est qu'ils ont pris le chemin inverse, en fait, des autres constructeurs. C'est qu'ils ont d'abord sorti tout ce qui est outils de développement. Et parce qu'aujourd'hui, toutes les applications, tu peux les développer en fait avec ARKit et tout ça. Tu peux le développer sur les iPhones ou même sur iPad. Tu as déjà des applis qui sont sorties là-dessus. Donc en fait, ils ont déjà un écosystème qui est existant, un kit de développement qui est déjà présent, des développeurs qui sont déjà formés un peu là-dessus, même s'ils n'ont pas énormément... Enfin, je n'ai pas regardé la quantité de logiciels qui font ça sur l'App Store, mais il y en a déjà qui existent en fait. Donc le casque va sortir avec déjà une Logitech qui peut être... Enfin, des logiciels, des jeux qui peuvent être déjà utilisés dessus, qui peuvent être intéressants, tu vois, pour eux, je pense.
Bah, ça nous amène à l'approche, effectivement, de ce casque d'Apple qui se confirmerait être vraiment, on va sortir un truc pour les développeurs à 3000 boules, ça va ressembler à un casque de ski, et puis il y aura une batterie externe que vous mettez dans la poche, et en gros, on ne sait pas trop à quoi ça sert, donc démerdez-vous. Il y a littéralement dans le rapport de Bloomberg la citation d'un employé d'Apple, anonyme, donc ça vaut ce que ça vaut, mais qui dit « En gros, Apple espère que les développeurs vont sauver le produit. » quoi. Et on verra ce que ça donne. Soit on lui trouve une utilité et en 2024, Apple sort une version moins chère. Là, on parle du casque de réalité mixte, qui est différent du casque de réalité augmentée dont on parlait il y a une seconde, qui est celui qui serait... enfin, des lunettes de réalité augmentée, qui est celui qu'on ne verra jamais. Le casque de réalité mixte, on va le voir à la WWDC dans 2 semaines. Et donc, c'est celui-là qui sera sorti avec... on verra ce que ça donne. Et peut-être que l'année prochaine, ils sortiront une version plus grand public. Et puis, si ça ne donne rien, peut-être qu'ils vont le montrer discrètement en milieu de conf pendant 4 minutes et qu'en 2025, on n'en entendra plus parler. C'est possible également. Mais bon... On verra. On aura la réponse dans quelques semaines seulement. L'application carte d'identité numérique est en train d'être testée. Elle sera disponible pour tout le monde d'ici la fin de l'année. Et c'est une application qui permet de prouver son identité partout où la carte d'identité classique nous permettait de le faire jusqu'ici. Alors pour l'utiliser, il faut avoir une carte d'identité électronique. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Carte d'identité électronique, je crois. Et puis, on connecte la carte, on la passe sur le lecteur NFC de notre smartphone. Et ensuite, donc, on a une carte d'identité qui fait preuve d'âge ou d'identité. Là où c'est intéressant, c'est que évidemment, ça permet de communiquer de téléphone à téléphone quand quelqu'un vous demande de prouver votre identité et de manière, bon, a priori sécurisée hein, pour ce type de communication. C'est plutôt pas mal, je trouve. Ça ne remplace pas complètement la carte d'identité, mais c'est pratique d'avoir ça dans son téléphone. Certains, là encore, disent « Ah bah ça aurait été tellement plus pratique de l'avoir dans le portefeuille Apple ou portefeuille Android. » Ce que je comprends, effectivement, ça aurait été plus pratique. Mais je me demande s'il n'est pas bon aussi de développer, pour un pays qui en a les moyens comme la France, de développer une application et une base technologique de compréhension des fonctionnements de ces trucs pour ne pas être dépendant d'Apple et Google, quoi.
Ah, c'est pas pour la compréhension. C'est là, pour le coup, au niveau de la souveraineté, on peut quand même, sur l'identité nationale...
Oui, c'est ce que je veux dire.
S'il y a un sujet sur lequel on peut avoir quelque chose de souverain, ça peut être là-dessus, je pense. En tout cas, moi, c'est mon avis. Après, l'intégrer dans les wallets, tu ne sais pas forcément au niveau technologique, mais derrière, ce qui se cache en termes de sécurité, si c'est le niveau que tu te fixes à toi. Ou alors, c'est-à-dire qu'après, il faut que tu audites chez eux qu'ils ont un certain niveau de sécurité que tu peux certifier pour intégrer des trucs, etc., mais tu rentres dans autre chose. Mais là, l'appli est intéressante. Donc oui, c'est en bêta et c'est plein, donc tu n'y as pas encore accès. Il faut les nouvelles cartes d'identité. Et en plus, ils proposent de t'en servir donc pour prouver ton identité physiquement, mais aussi pour t'en servir de système d'authentification tiers, pour avoir un identifiant unique, comme faisait France Connect sur le site web. Mais avec cette appli, tu peux le faire au niveau intégré. Alors ça, je suis curieux de voir comment ça va marcher au niveau des applis mobiles ou des sites web, si du coup tu vas avoir une interaction avec cette appli pour te connecter, si ça va te l'ouvrir quand tu veux te connecter, des choses comme ça, un peu comme tu peux avoir, tu vois, l'Apple ID ou l'Apple Connect ou le Google Connect. Je suis curieux de voir ça, mais
là où ça pourrait être utile et débloquer un truc dont on parle depuis longtemps, c'est la preuve de l'âge. Pour les, bah, je vois Guillaume hocher de la tête, c'est ce dont tu voulais parler, non?
J'ai plus de 18 ans.
C'est typiquement ça, effectivement. Hein. Tous les accès aux sites qui sont accessibles normalement aux personnes majeures et aux plus de 18 ans, depuis le temps qu'on est tous d'accord pour dire oui, ce serait bien que quelque chose soit fait, mais qu'on est tous d'accord aussi pour dire que toutes les solutions technologiques aujourd'hui ne sont pas viables et ne permettent pas de répondre de manière satisfaisante au problème. Peut-être que là, on est en train de dessiner une solution à peu près viable.
Si tu peux prouver ton âge sans fournir tes pièces d'identité, en fait, ça peut être génial, parce que du coup, tu peux rester anonyme, tu peux avoir ce service-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on n'est pas capable de faire.
C'est l'une des fonctionnalités du service qui permettrait effectivement de dire bah, cette personne a plus de 18 ans. Bon, alors après, est-ce qu'on va l'utiliser? On prend le téléphone de papa ou de maman et on fait machin. Oui, tout est toujours possible, encore une fois. Le truc, c'est qu'évidemment, il va falloir attendre un bon moment avant que cette technologie soit suffisamment répandue dans la population française pour que ça soit une solution viable commercialement, ne serait-ce que ça. Mais il n'empêche, bon, est-ce qu'ensuite ça établit aussi au moins avec une solution propriétaire, s'il y a des problèmes de fuite de données ou de ce genre de choses, ben, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes et on ne pourra pas accuser Apple et Google de ne pas avoir bien géré les données. Quoi d'autre ? Le Montana a banni non seulement TikTok dans tout le pays, enfin, pardon, dans tout l'État, ce pourquoi d'ailleurs il y a des procès qui commencent à être lancés, de la part de TikTok notamment. On parle depuis un moment du fait de bannir TikTok des appareils fournis par l'administration. Là, ils ont été plus loin, ils ont banni TikTok de l'État. Genre, TikTok n'a pas le droit d'être utilisé dans le Montana. On va voir si ça va tenir au niveau fédéral. Mais en plus de ça, ils ont commencé à bannir des applications des appareils fournis par l'État aux employés de l'État, des applications comme Telegram, WeChat, l'application de shopping Temu. En gros, c'est des applications chinoises et Telegram, qui est à l'origine russe, mais qui est aujourd'hui basée à Dubaï. Je reste un petit peu... J'ai l'impression que là, quand on parlait de TikTok, Cédric Ingrand, vous en souviendrez peut-être, me disait « Oui, mais enfin, c'est du procès d'intention. » Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord parce que, bon... Là... Je me demande si ça ratisse quand même un peu large. On n'a pas de raison de suspecter que WeChat ou Temu, mais en même temps, c'est la même structure que TikTok. C'est tenu par des applications, enfin des sociétés chinoises, dans lesquelles le gouvernement chinois a ses entrées.
Telegram, ça n'a pas...
Non, pas Telegram. Telegram, c'est Dubaï.
Ouais, ça va au-delà de ça.
Ouais.
Je pense que ça ratisse un peu large quand même, sous couvert de... On ne sait pas trop, on n'a pas le contrôle dessus. Et craignez les étrangers quand même, c'est les applications tierces venant de l'étranger. sans raison valable. Mais après, tu as toujours un moyen de le contourner, ce truc-là. Ça va forcément se faire. Enfin,
bah, disons qu'après, oui, c'est au niveau fédéral que ça va se jouer, j'imagine, parce que c'est quand même... C'est quoi, c'est le gouvernement,
tu vas te faire arrêter par monsieur Largent sur le coin de la rue. Montre-moi ton téléphone, prouve-moi que tu n'as pas tes applications installées dessus.
Évidemment, c'est pas à ce niveau. Enfin, mais même techniquement, c'est hyper compliqué, parce que est-ce que dans l'App Store, tu n'affiches plus Telegram si la personne vit dans le Montana? Alors là, c'est l'adresse de facturation, j'imagine, qui fait foi, comme c'est le cas pour les pays dans lesquels les applications sont disponibles ou pas disponibles. ChatGPT, par exemple, n'est pas disponible en Europe. L'application iOS qui vient de sortir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon.
Ouais, je ne crois pas que tu aies le géoblocking au niveau État.
Je ne pense pas non plus. Mais
que ça reste au niveau...
Mais maintenant, légalement, alors si ça tient, on va voir ce que ça donnera, mais si ça tient, en théorie, à partir du 1er juin, Apple n'a plus le droit de proposer TikTok, si j'ai bien compris, l'application TikTok au Montanais. Bon. Et puisqu'on
voit... Traverse la frontière, l'appli se désinstalle.
C'est ça, exactement. non, mais je pense que si t'es citoyen du Montana, tu vois, si t'es redevable de tes impôts, je pense que c'est comme ça que ça se base. Si tu payes tes impôts au Montana, peut-être.
Alors, si t'es touriste qui traverse. Ah ouais, non, mais c'est.
Ça, bah, ça si t'es touriste, non. C'est comme si tu es. Je sais pas, si tu as une application. Moi, j'ai HBO Max, par exemple, qui est disponible en Finlande. Si je viens en France, je peux toujours regarder HBO Max. Tu vois, j'ai mon compte, il est basé en Finlande, facturé en Finlande avec une carte finlandaise. Donc, j'ai HBO Max et je vous emmerde. Voilà. Pardon. La Chine, puisqu'on parlait d'elle, a trouvé des risques de cybersécurité sérieux chez le fabricant américain de puces mémoire, Micron. Et j'ai lu une analyse intéressante. Ça ne va pas aller très loin. Évidemment, c'est une réponse aux attaques commerciales et techniques et de cybersécurité américaine contre la Chine, qui a fait différentes actions en ce sens, et c'est une réponse. Ça, on s'en doutait. On se doute également que la Chine ne peut pas se permettre de trop bannir des trucs américains, parce qu'au bout d'un moment, ils en ont besoin pour faire tourner leur économie aussi. L'inverse est vrai, mais structuré comme c'est, ça tient pour les États-Unis. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que le bannissement de Micron, en fait, peut pousser l'industrie chinoise dans ce domaine à se développer beaucoup plus rapidement. Et du coup, c'est une décision qui n'est pas tant, a priori, tournée contre les États-Unis, même si, évidemment, mais pour stimuler et motiver l'industrie chinoise de fonderie de puces mémoire. J'ai trouvé cette analyse.
C'est quand même, sérieusement, retour de bâton de l'affaire Huawei, hein, quand même, entre les US et la Chine.
Plus que Huawei,
dans l'autre sens.
Hein, maintenant, oui.
C'est la même chose à l'inverse.
Et mais tu sais, Micron, leur chiffre d'affaires en Chine, c'est 10% de leur chiffre d'affaires. Et c'est un producteur qu'on connaît, mais qui ne voilà, qui va pas être terrassé par la décision. Et ce n'est pas demain que, par exemple, je ne sais pas, la Chine ne va pas bannir Intel ou Microsoft ou ce genre de choses. Ce n'est pas... Bon...
Après, ça ne serait pas le premier business qui se retire de la Chine pour des difficultés comme ça de régulation par rapport au gouvernement chinois. Donc,
Non, je pense que oui, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que le business de la Chine n'est pas vital, même si c'est important, 10%, ce n'est pas rien du tout, mais ce n'est pas vital pour Micron. Quoi. L'Europe a infligé une amende d'1,2 milliard d'euros à Meta pour des questions de transfert de données avec la chute du Privacy Shield et son remplacement qui n'est pas encore implémenté, mais 1,2 milliard, c'est la plus grosse amende jamais émise par l'Union européenne à l'encontre de sociétés tech. Et c'est Meta qui en est le fier récepteur.
Dépenteur de cette médaille. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire tant mieux et que ça serve un peu de leçon à toutes les entreprises qui font un peu n'importe quoi avec les données. De voir un petit peu. Non, mais c'est vrai parce que jusqu'à présent. en fait, jusqu'à présent, c'était un drapeau qui faisait peur. C'est-à-dire qu'on disait ah, attention, les données, etc. Il y a des amendes qui ont tombé, etc. Mais il n'y a vraiment jamais eu de vrai gros coup qui a été fait. Donc, toutes les entreprises réagissaient, tu vois, sur le RGPD et tout ça, en disant faut le faire, etc. Mais il y en a plein qui ne le font pas vraiment. En prenant le risque, en fait, que cette amende tombe par rapport au pourcentage. C'est un pourcentage du CA, je crois, qu'ils ont calculé derrière du chiffre d'affaires, du coup, qui était généré. Et j'espère que ça servira de leçon pour que ça sensibilise les entreprises qui font du traitement de données à faire un peu plus attention aux données. Alors, je ne dis pas que ce soit extrémiste au point de tout arrêter, tout bloquer, mais au moins de se dire ça peut arriver. Moi, je le vois parce que, en fait, quand tu interagis avec des gens qui prennent des décisions ou placées dans des entreprises, te dire attention, tu vois, quand tu as ce volet sécurité, quand tu as ce volet législation, tu dis attention à ce risque-là. Mais des fois, si tu mets ça par rapport au business en disant c'est un risque, mais il n'est jamais vraiment tombé, en fait. Comment tu vas évaluer le fait que ce risque, il va t'arriver dessus, que niveau business, il faut que tu puisses investir pour te dire oui, il faut que j'aille plus loin dans le traitement de mes données, pour la sécurisation, etc. Parce que ça peut me faire très mal d'un point de vue business. Jusqu'à présent, tant que ce risque n'était pas vraiment tombé, il y a plein d'entreprises qui disaient on prend le risque, tu vois. Là, aujourd'hui, tu vas pouvoir mettre ça devant, jurisprudence peut-être, en disant, regardez, Meta, ils ont pris une belle amende. Projetez-vous quoi, sur votre business à vous. Si vous aviez une amende de cette ampleur-là sur votre CA, qu'est-ce que ça vous ferait quoi. Et peut-être qu'il faut investir dans la sécurisation de vos données.
Ce serait pleinement valable, et ce sera peut-être le cas, mais ce sera pleinement valable si jamais il y a vraiment un chèque qui part de chez Meta pour payer l'amende, parce qu'évidemment, il y a toutes les bonnes raisons de penser qui vont travailler juridiquement massivement et attendre une mise à jour qui pourrait arriver cet été, je crois, ou d'ici fin d'année sur le Privacy Shield. Donc bon, mais sur l'intention, évidemment, il est temps qu'il y en ait un qui paye quand même.
Oui, le seul truc qui est totalement pas crédible, c'est l'idée que Facebook ou Meta quittent l'Europe. Ils font tellement d'argent ici, évidemment, ça n'a
pas sens. C'est sûr, ils n'ont plus à perdre.
C'est ça. Et je crois qu'on arrive au bout. Alors, un truc que je voudrais mentionner, on parle peu d'e-sport, mais peut-être que vous en avez entendu parler ces dernières semaines et ces derniers jours avec les gros événements qui ont eu lieu en France. Je voudrais vous encourager à aller regarder un documentaire du YouTuber Ego qui s'appelle « Les nouveaux rois de Rocket League », qui est un documentaire qui a été partagé par Johan, je crois, sur le Discord, et qui est phénoménal. 25 minutes seulement, je le mettrai dans la newsletter pour les patriotes, si vous ne voulez pas vous embêter à aller chercher ça sur YouTube. Mais je pense qu'il est impossible de ne pas vibrer pour l'équipe que présente ce documentaire quand on le regarde. L'histoire est incroyable, le documentaire, la réalisation, la manière de faire le storytelling est complètement brillante. C'est une équipe qui a du coup, je vais pas spoiler, mais qui joue à Rocket League, qui est un jeu de foot avec des voitures qui ont des fusées attachées aux fesses. Et là, vous dites, mais de quoi parle Patrick ? C'est incroyable, le jeu est super fun et ça fonctionne vraiment. Et il y a de la stratégie, de la technique. Et l'histoire de cette équipe, qui est l'équipe de la Carmine Corp, qui est fondée par un gros streamer français qui s'appelle Kameto, très suivi en France. L'histoire est hyper motivante, excitante, émouvante, tout ce que vous voulez. Et franchement, j'aimerais... Vous, auditeurs du Rendez-vous Tech, qui n'êtes pas forcément au fait du jeu vidéo et de l'e-sport, et que peut-être... Parce que les gens qui écoutent le Rendez-vous Tech et qui écoutent le Rendez-vous Jeu aussi vont se dire « Ah ouais, il est super, peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous allez vous précipiter dessus. » Ok, vous, c'est très bien, on vous a déjà dans notre panier. Si vous êtes auditeur du Rendez-vous Tech et que peut-être que vous ne connaissez pas bien le jeu vidéo et que l'e-sport, ça vous fait marrer, et que vous dites « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries, jeux vidéo, sportif, n'importe quoi ?» Allez, je vous en conjure, allez regarder ce documentaire et vous comprendrez pourquoi les émotions que ça procure sont vraiment authentiques et les histoires et les championnats sont aussi excitants qu'on peut l'avoir dans le sport traditionnel. Ça s'appelle « Les nouveaux rois de Rocket League » et c'est sur YouTube. Et je voulais le mentionner parce que j'ai passé une super demi-heure en regardant ça. Donc, je vous encourage à aller le regarder.
Après, c'est très bien monté, très bien raconté aussi. Donc, il y a un très beau travail aussi derrière qui a été fait.
Complètement. Oui, oui. Non, mais le documentaire lui-même est...
Pour découvrir ce milieu, c'est chouette.
Tout à fait. Il y en a quelques autres que je mettrai. Il y a un documentaire de TPK aussi sur un champion puertoricain, dominicain, pardon, de Street Fighter V qui a gagné... le premier gros truc qu'il a gagné, je crois, 250 000 dollars. Il les a réinvestis dans sa communauté, dans son pays. Il a continué à faire des trucs. Enfin, c'est super intéressant aussi. Je mettrai ça dans la newsletter pour les patriotes. Et même si ce n'est pas votre truc, l'e-sport, je vous encourage à regarder ça. Je vous encourage également à aller voir ce que fait Guillaume Vendée sur Internet. Peux-tu nous en dire plus, Guillaume ?
Bah oui, en plus, je vais rebrancher avec le sujet que tu viens de présenter très rapidement parce que j'ai lancé un petit projet un peu plus personnel depuis le début de l'année qui s'appelle Contrôle parental. C'est un podcast où, vous l'avez compris, je parle un peu de parentalité et j'ai eu la chance d'interroger un créateur d'un club de e-sport local là, à Amiens. Gaspard, là, avec son association Miro, et il parle, lui, justement, du e-sport. Alors, évidemment, pas avec une dimension nationale ou internationale, on n'est pas la Team Vitality, mais il parle évidemment de jeux vidéo, et je pense qu'il y a peut-être beaucoup à en apprendre. Donc, je peux que vous inviter à écouter cet épisode. Et puis, sinon, vous me retrouvez aussi dans un autre podcast tech qui s'appelle Tech Café. Et là, je peux vous inviter peut-être à vous abonner parce qu'on a un très bel épisode qui arrive dans quelques jours que j'ai fait avec l'UNEDIC. On parle d'open data. Et en fait, j'ai appris plein de choses sur l'open data, derrière les évidences qu'on peut avoir et peut-être même les idées reçues qu'on peut avoir à ce sujet-là. J'ai appris pas mal de choses. Donc voilà, vous retrouvez ça également dans Tech Café.
Avec ces photos, avec cette coupe parfaite, là, il faut vraiment que je travaille.
Oh là 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 là.
Christophe, dis-nous où tu es toi aussi.
Moi, majoritairement, vous allez m'en trouver sur Twitter, là. Chris Kamikas, si vous voulez interagir avec moi, ça se passe par là-bas. Pour le reste, un peu moins présent sur les podcasts et les vidéos.
Ouais. Magnifique, bah, Chris Kamikas, le lien vers ton compte Twitter comme celui de Guillaume sera dans les liens, dans les notes de l'émission. Dans les notes de l'émission, vous retrouvez aussi tous les liens vers ce que je fais. Le Discord, où on passe de très bons moments. Le Twitch, où on diffuse en direct tous les mardis midi et jeudi midi. Le lien vers les replays sur YouTube également, qui sont disponibles. Et puis, bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech, que vous pouvez faire maintenant, vous pouvez faire plus tard, vous pouvez faire la nuit, vous pouvez faire sous la douche, vous pouvez faire où vous voulez. Vous pouvez vous abonner à Patreon. Sous la douche, mettez votre téléphone dans un sac plastique quand même, parce que enfin, ça dépend du téléphone. Mais vous pouvez faire où vous voulez, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.